vous écoutez Au bout de soi, un balado dans lequel je vous partage mes réflexions et apprentissages de vie et ceux de gens de la communauté de Gaspé. Je m'appelle Caroline Farley et je vous invite à découvrir des témoignages sincères, touchants et remplis d'humanité, livrés par des personnes qui, comme moi, ont le goût de s'ouvrir et de partager leur expérience. C'est une occasion d'apprendre les uns des autres, de s'inspirer et de s'aider à mieux vivre. Bonjour tout le monde, merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir de vous savoir à nouveau à l'écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de résilience. C'est un sujet qui m'a toujours intriguée, je me pose une foule de questions par rapport au fait qu'il y a des gens qui affrontent des épreuves de vie, que ce soit des accidents, des deuils, de la maladie, des traumatismes, et qui malgré tout ça, malgré l'ampleur et l'aspect tragique de ce qu'ils ont à affronter, bien ils arrivent à trouver la force intérieure pour surmonter ce qui pourrait paraître aux yeux de plusieurs insurmontable. J'ai abordé ce thème-là en vous racontant deux histoires de résilience. D'abord, je vous présente tout de suite mon invité qui va se joindre à moi dans quelques minutes. Il s'appelle François Roussy. Vous le connaissez sans doute très certainement parce que François a été maire de Gaspé de 2005 à 2013. Au cours des dernières années, François Roussy a été impliqué, bien malgré lui, dans une saga judiciaire et politique qui a duré 4 ans et demi et qui s'est conclue l'automne dernier par un arrêt des procédures. Alors, j'ai vraiment hâte de parler avec François, car d'après moi, il a dû faire preuve d'une très grande résilience pour affronter ce qui s'est passé dans les dernières années. Puis, tout au long du processus, je vous cacherai pas que je me suis demandé très souvent comment François faisait pour gérer tout ça. Alors, on lui demandera tout à l'heure. Mais avant, je vais vous parler d'une histoire de résilience toute personnelle. C'est celle de ma petite fille Béatrice, qui a 9 ans. Je vous avoue que ce que notre petite fille a vécu dans les dernières années, ça nous a tous profondément marqué, ses sœurs, mon chum, qui est aussi son papa, et moi. Puis j'ai envie de vous en parler parce que Béatrice, avec ce qu'elle a vécu, je pense que ça démontre à quel point la résilience n'a pas d'âge. D'abord, pour vous mettre en contexte, Béatrice fait de l'eczéma sévère depuis qu'elle a 1 an. Dans son cas, c'est surtout son visage puis ses mains qui sont affectées. De l'âge de 1 an à 4 ans, Béa s'est réveillée entre 2 et 8 fois par nuit, tellement les démangeaisons puis les douleurs étaient intenses. Je vous dis, là, c'était vraiment un moment difficile, là. Les draps de son lit étaient tachés de sang, tellement elle se grattait puis ça saignait. Et malgré ces nuits atroces-là, ma petite fille, elle se levait avec un beau sourire lumineux pratiquement chaque matin. Béatrice, c'est vraiment un bébé sourire qui est devenu une enfant sourire, puis pour moi, c'est mon symbole tout personnel de la résilience. En fait, c'est grâce à elle, à sa force, à son courage, à sa persévérance et à son positivisme dans cette épreuve-là, c'est grâce à tout ça que ça m'a donné l'énergie pour me battre avec elle contre cette maladie-là qui en apparence a l'air tellement banale, mais qui peut tellement miner la qualité de vie. Ceux qui souffrent d'eczéma le savent, là, ça peut vraiment, sans jeu de mots, là, ça peut vraiment être une plaie, cette maladie-là. Puis je vais vous dire, on en a passé du temps collés l'une sur l'autre la nuit à essayer de contrôler ses douleurs. Si vous saviez combien de fois, pendant que je la serrais dans mes bras pour l'empêcher de se gratter, là, combien de fois je me suis demandé comment elle faisait pour être aussi forte et aussi courageuse à un si jeune âge. Et en plus de son eczéma, Béatrice, elle a vécu quelques malchances qui nous ont vraiment fait peur. Il y a 2 événements en particulier qui nous ont marqués là, dans notre famille. Lorsqu'elle avait 4 ans, elle s'est mise à boiter soudainement sans raison apparente. C'était une journée là, d'été, on avait fait une vente de garage, puis à la fin de la journée, oups, ça s'est mis à boiter. Mais elle avait pas de douleur, tout allait bien, mais elle boitait. Le lendemain, elle a commencé à faire de la fièvre, une fièvre quand même assez forte. Au début, on a pensé que c'était peut-être une insolation parce qu'on avait passé la journée dehors puis il avait vraiment fait chaud. Mais ça commençait à nous fatiguer parce qu'on savait pas si les deux choses étaient reliées, si le boitement puis la fièvre avaient un lien. Habituellement, quand on faisait de la fièvre, on réussissait à la contrôler avec de l'acétaminophène et de l'ibuprofène, mais cette fois-là, on réussissait pas vraiment. Le lendemain matin, elle a perdu l'équilibre, encore une fois à cause de son boitement, puis elle s'est cognée sur le front. Au petit matin, quand j'ai vu la marque sur son visage, puis j'ai vu qu'elle faisait encore de la fièvre, puis que c'était élevé, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui clochait vraiment, puis j'ai écouté mon instinct, puis je suis débarquée à l'urgence avec elle. Au mieux, je me dis, ben le médecin va nous rassurer, puis on se sera déplacé pour rien, mais je voulais vraiment en avoir le cœur net. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a déboulé. Écoutez, 15 minutes après notre arrivée à l'hôpital, Béatrice était branchée de partout, était sur un soluté. Son taux d'oxygénation était bas, elle était déshydratée. À ce moment-là, le médecin suspectait une infection bactérienne, puis il a tout de suite administré un antibiotique à spectre général, le temps de lui faire passer d'autres examens. Donc, on a passé la journée à l'hôpital, l'antibiotique semblait faire effet, Béatrice allait mieux, puis on a eu l'autorisation de retourner à la maison dans l'attente des résultats. Le lendemain, le pédiatre nous appelle, il venait d'avoir les résultats, diagnostic, une ostéomyélite. Ça, c'est une bactérie qui s'était infiltrée dans sa jambe. Et là, il fallait l'hospitaliser tout de suite, on n'avait pas de temps à perdre. Donc, on est passé à « tout est sous contrôle, Béatrice allait bien » à « il faut vraiment agir au plus vite avant que la bactérie fasse trop de dommages à sa jambe ou à sa vie ». Parce qu'imaginez, il y a quelques années, ça arrivait que des personnes qui avaient ce type de bactérie-là, ils perdent la partie du corps qui était atteinte ou même qui perdaient la vie. Donc, fallait vraiment faire vite. On a été envoyé en médecine nucléaire à l'hôpital de Chandler en transport adapté. Béatrice a été hospitalisée 5 jours pour qu'on puisse venir à bout de la situation puis connaître l'état de sa condition. Elle a passé là plein d'examens, entre autres là, en médecine nucléaire, elle est allée dans un scanner qui était extrêmement bruyant dans lequel elle pouvait pas bouger. Elle a eu quelques cathéters d'installer pour qu'on puisse lui administrer son antibiotique. On compte plus les prises de sang que l'a eu non plus. Bref, on a perdu le compte de toutes ces interventions médicales-là, mais ce dont on se rappelle clairement, mon chum et moi, c'est qu'on a tellement passé des beaux moments ensemble avec Béatrice pendant son hospitalisation. Béa, elle était souriante, elle riait beaucoup, elle se plaignait pas. Puis à chaque fois que le personnel soignant devait lui faire une manœuvre ou une intervention, elle bougeait pas. Bref, c'était la patiente parfaite, là, elle a charmé tout le monde. Et dans tout ce moment-là, j'ai vu Béatrice pleurer une seule fois. C'est arrivé une nuit où son cathéter s'était déplacé, puis les infirmières y ont dû le réinstaller, puis ça n'avait pas été facile. Mais c'est la seule et unique fois où je l'ai vue pleurer. Encore aujourd'hui, ça m'impressionne de voir à quel point elle a été forte pendant cet épisode-là. Heureusement, après 6 semaines d'antibiotiques, tout est rentré dans l'ordre, puis Béatrice s'en est très bien remise sans séquelles à sa jambe. Il y a aussi eu un autre événement en lien avec son allergie aux arachides qui nous a fait très peur quelques mois plus tard. À ce moment-là, Béatrice, elle avait 5 ans. Un jour à la garderie, Béatrice a commencé à avoir des plaques et des boursouflures sur le corps, mais malgré tout ça, elle allait bien. Faut dire que le seuil de tolérance à la douleur de Béatrice est très élevé, puis ça nous empêche là, des fois de savoir à quel point ce qu'elle vit est souffrant. La peau de Béatrice étant fragile, c'était pas anormal comme tel là, qu'elle ait ces plaques-là puis ces boursouflures-là. Et donc, en fin de journée, par contre, son état s'est détérioré rapidement. Puis quand je suis arrivée à la garderie, là, je l'ai vu, puis là, je me suis dit, OK, on va tout de suite à l'hôpital pour voir ce qui se passe. T'sais, c'était clair qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Puis pendant que je l'habillais, Béa m'a dit qu'elle avait de la difficulté à respirer. Puis 2 secondes après, elle a commencé à vomir. À ce moment-là, j'ai demandé à ce qu'on appelle le 911. Béatrice était blanche comme un drap, elle était somnolente, était en train de faire un choc anaphylactique. Moi, j'ai sorti l'épipène qui était dans mon manteau, puis juste avant de lui injecter, j'ai comme eu peur de manquer mon coup. Alors, j'ai demandé à l'éducatrice qui était à côté de nous de le faire parce que je savais qu'elle était formée, puis elle avait un enfant polyallergique, fait que j'avais vraiment confiance en elle. Puis pendant l'injection, ben pendant qu'elle elle faisait l'injection, moi j'ai pu rester en contact visuel avec Béatrice. Je la regardais, je lui parlais, je la rassurais, tout en répondant aux questions du téléphoniste du 911. L'ambulance était en route, puis pendant ce temps-là, on attendait que l'épinéphrine fasse son effet. Puis moi, je m'attendais à un genre de sursaut de Béatrice, d'un genre de regain de vitalité, là. Vous savez, comme on voit dans les films, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Le visage de Béatrice était rendu un peu bleuté. Elle était amorphe dans mes bras. Puis j'avais de la difficulté à savoir si elle respirait bel et bien. À l'arrivée des ambulanciers, ils ont stabilisé ses signes vitaux avant qu'on parte pour l'hôpital. Puis là, ils l'ont pris en charge, puis la situation s'est résorbée au bout de quelques heures. Mais encore une fois, on l'a échappé belle, puis on a évité le pire, mais on a eu vraiment une très grosse frousse. Vivre avec une allergie alimentaire, là, c'est un peu comme vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ceux qui vivent avec ça eux-mêmes ou qui en ont dans leur entourage, je pense qu'ils savent de quoi je parle quand je dis ça, là, mais c'est toujours comme une préoccupation qu'on a là dans notre esprit. Pour la petite histoire, là, on n'a jamais su à quoi Béatrice a réagi. Il n'y avait aucune arachide ou trace d'arachide dans ce qu'elle avait mangé cette journée-là, donc on suppose qu'il y a eu une contamination croisée. Encore une fois, dans cet événement-là, Béatrice, elle nous a vraiment impressionné par sa résilience. Puis, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit traumatisée après avoir vécu un choc anaphylactique. C'est quand même pas rien, là, vomir beaucoup, ne plus être capable de respirer facilement. Elle aurait pu avoir peur de manger tout court après cet épisode-là ou peur de manger ailleurs qu'à la maison. Mais non, elle a repris sa vie pratiquement normalement. Je vous dirais que moi, par contre, ça m'a quand même traumatisée dans les jours qui ont suivi. J'étais vraiment sous le choc. J'avais encore les images en tête. J'avais le visage de Béatrice blanc, puis ensuite bleu en tête. Puis ça m'a pris un certain temps. Puis pour m'assurer que ça arrive pas à nouveau, j'ai fait vraiment beaucoup de démarches avec la garderie, puis l'école, parce qu'elle avait commencé la passe-partout à ce moment-là. Ça m'a permis de me rassurer, là, afin qu'on lui offre un environnement le plus sécuritaire possible. Ces événements-là vécus par puis avec Béatrice, évidemment, comme je vous disais, ils nous ont marqués. Béatrice est vraiment spéciale. À mes yeux, elle fait partie de ces gens qui ont une vieille âme. Vous savez, des fois, on dit ça de certaines personnes. Puis moi, je vous dirais que de voir ma fille être aussi forte, aussi courageuse et résiliente à un aussi jeune âge, ça m'a vraiment donné une leçon de vie. Puis j'ai tenté d'être à la hauteur de sa force pour l'accompagner du mieux possible à travers ces épreuves-là. Puis quand je vis des moments difficiles, ça m'arrive même de me dire que Béatrice surmonterait ce moment-là avec courage, calme, puis sûrement aussi avec le sourire. C'est vraiment marquant, tu sais, puis ça m'inspire, ça me donne la force. Et dans tous ces événements-là qui sont survenus, ben j'ai aussi appris à faire confiance à mon instinct maternel. On les connaît, nos enfants, hein? Puis souvent on le sait au fond de nous-mêmes qu'il y a quelque chose qui va pas. Sans devenir paranoïaque, là, je pense que c'est important de l'écouter, notre petite voix intérieure. Ça peut parfois faire toute la différence. Puis au-delà de ces moments difficiles, ce que j'en retire chaque jour, c'est le fort lien qui nous unit, Béatrice puis moi. On a passé tellement de temps collés, enlacés, à se parler pour traverser les moments difficiles. On est tellement connectés, là, si vous saviez. On se dit d'ailleurs souvent en blague qu'on est des colleuses professionnelles. Ça nous fait vraiment rire, ça. Mais c'est vraiment plus fort que nous. Et ça me fait du bien autant qu'à elle, sinon plus. Puis pour ceux qui veulent savoir comment va Béatrice aujourd'hui, bien, elle va très bien. Elle fait encore de l'eczéma, mais depuis qu'elle a 4 ans, on a le contrôle beaucoup plus facilement sur son eczéma, beaucoup plus qu'avant en tout cas, puis on a même des moments d'accalmie. C'est quand même paradoxal parce que quand je lui ai lu mon article de blog à propos de sa résilience, parce que là, vous écoutez la version balado, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller lire l'article de blog que j'ai écrit sur mon site web auboutdesoi.ca. Et donc, je voulais lui partager le contenu pour voir si ça lui convenait puis si ça me permettait de le publier. Puis à ce moment-là, un des pouces de Béatrice était vraiment rongé par l'eczéma. Là, il était enflé, il était gros. C'était vraiment difficile puis ça la faisait vraiment souffrir. Puis savez-vous ce qu'elle m'a dit après que je lui ai lu l'article? Elle m'a tout simplement dit « C'est magnifique ». Puis elle s'est mise à pleurer dans mes bras, là, puis ça a duré une bonne demi-heure. Quand j'ai demandé pourquoi elle pleurait, elle me dit que ça lui avait fait revivre ces moments difficiles-là, puis elle n'avait pas réalisé à quel point elle était courageuse puis forte. Ça l'a vraiment, vraiment touchée. Puis ce moment-là, c'est long, là, une demi-heure, enlacée, à entendre son enfant pleurer tout doucement. Ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que du haut de ses 9 ans, elle a compris que je lui rendais hommage, puis elle en a été touchée. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je la trouve vraiment spéciale, ma petite fille, puis c'est extraordinaire de voir comment elle comprend puis elle ressent les choses. En tout cas, ça m'a fait du bien de partager son histoire avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir écoutée. Pour parler du thème de la résilience, mais dans une toute autre optique que celle dont je vous ai parlé en introduction, bien moi, j'ai tout de suite pensé à François Roussy. Possiblement que, comme moi, vous savez, vous êtes demandé des tonnes de fois comment François Roussy, ancien maire de Gaspé, a vécu les dernières années. Il a affronté une grande épreuve là, lors de laquelle il a été accusé au criminel. Et évidemment, ben au sein de notre communauté de Gaspé, François est une figure très connue puisqu'il a été maire pendant plusieurs années. Donc, je me suis tournée vers François qui a accepté rapidement et gentiment mon invitation à participer au balado. François, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Très contente que tu sois là. Ça fait quelques mois qu'on travaille là-dessus. Ben, ouais. En fait, fallait trouver le timing pour... parce que tu es un homme occupé quand même.
Oui, pas mal. J'ai pas mal de projets ces temps-ci sur lesquels je travaille. Puis, on s'était parlé au mois de février, je pense.
Oui, c'est ça.
Ça fait quand même un bon petit bout. C'est trouver le bon moment, le bon temps. Puis... Je te remercie d'avoir pensé à moi. Je te cacherai pas que j'ai écouté toutes tes émissions, puis je suis touché par les témoignages des gens. J'espère que je vais être aussi bon que tes gens qui se sont ouverts à toi. Puis je suis ici parce que j'ai le goût qu'on se parle, puis qu'on discute de ce que j'ai vécu dans les dernières années.
Bien, merci d'être là. Ma première question, elle est toute simple. J'aimerais savoir comment tu vas.
Comment je vais? La réponse facile que tout le monde habituellement dit, c'est « je vais bien ». Je vais relativement bien, dans le sens que je suis chanceux dans la vie, parce que je suis terriblement bien entouré.
Okay.
J'ai la chance d'avoir une famille extraordinaire, des parents extraordinaires, qui me supportent beaucoup dans ce que j'ai vécu. Un frère qu'on s'aime, on se dit inconditionnellement. Fait que c'est des richesses extraordinaires. Parce que quand tu vis des épreuves comme j'ai vécu, puis comme les gens vivent, puis tu sais, je dis une épreuve, là, je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui vivent des beaucoup plus grandes épreuves que ce que j'ai vécu, mais c'est sûr que par rapport à ce que tu disais justement, que j'étais maire, tout ça, de se faire accuser au criminel, c'est ça a été pour moi en tout cas une grande épreuve. Mais c'est comme je dis, je suis très, très bien entouré. J'ai un garçon qui me rend fier, qui me rend heureux, qui me fait rire, que j'ai une très bonne relation avec lui, des amis extraordinaires, une blonde, une amoureuse. Je suis vraiment privilégié là, tu sais, dans ces épreuves-là. Là, elle m'a sauvé la vie là, tu sais, elle m'a encore donné la confiance que la vie peut être belle, qu'on peut avoir du fun, qu'on peut être heureux. sais, dans ces années-là, là, c'était mon oasis, là, tu sais. Mm. On partait prendre des marches à la plage quand j'ai eu des moments difficiles où on a fait des voyages, des activités avec les enfants, tout ça, tu sais. Ça, elle m'a vraiment là permis de voir que la vie est encore belle, tu sais, pouvait être très très belle, tu sais, parce que moi j'ai toujours été un gars optimiste là dans la vie. Puis tu sais, ça m'a pas éteindu ce qui est arrivé, mais ça a enlevé une partie de ma confiance en la vie, une partie de confiance en moi, une partie de confiance aux autres, tu sais, qui fait que j'ai pas encore atteint le bonheur que j'ai déjà eu, tu sais, dans le sens que l'optimisme puis que j'avais là avant ces événements là, moi peu importe le problème qui arrivait, là, j'étais tout le temps en mode solution, puis je trouve encore que la vie est belle là, mais j'ai toujours été du côté que la vie là, c'est extraordinaire, puis que les gens sont bons, puis que le monde est bon, puis que si on nourrit le bon, il va arriver du bon, tu sais. Mais là avec ces événements là, ouf, ça a impacté sur ma vision du bonheur. Fait que oui, je vais bien parce que je suis terriblement bien entouré. J'ai plein de beaux projets, j'ai plein de beaux partenaires d'affaires aussi. Tu sais, quelqu'un qui dirait, voyons François, ta vie va bien là, tu sais, ça va bien dans tes projets d'affaires, ça va bien dans ta famille, ça va bien dans tes amours, ça va bien dans, tu sais, ton garçon,
tout ça. T'as tout pour être heureux.
J'ai tout, mais il manque la petite flamme n'est pas aussi vive qu'elle était. Mm. Fait que je t'en raconte, parce que j'écoutais beaucoup, là, Isabelle, Frédéric, moi, je trouve tellement qu'ils sont rendus plus loin que moi, là, puis tellement un beau cheminement qu'ils ont fait, sont vraiment inspirants. Ça m'a vraiment aidé d'écouter tes balados pour m'inspirer sur la suite des choses en me disant, un peu comme Frédéric disait, je l'écoutais justement, puis il me disait, tu sais, oui, je peux aller mieux. Oui, je peux être, redécouvrir le bonheur, ressentir le bonheur. Ben, c'est ça que j'ai confiance en l'avenir. Mais présentement, je suis en reconstruction.
Ouais.
Vraiment.
J'entends la blessure en toi là. On peut pas sortir de ça indemne non plus là. Mm-hmm. D'ailleurs, ben, on va relater un peu ce qui s'est passé pour les gens qui sont moins familiers. En septembre 2020, après 4 ans et demi en attente d'un procès, les accusations d'abus de confiance et d'actes de corruption qui pesaient sur toi sont tombées lorsque la Cour du Québec a ordonné un arrêt des procédures en raison de délais déraisonnables dans le dossier. Ça a été quoi ta première réaction quand tout ça a pris fin au terme de ces 4 années et demie-là?
C'est comme si on n'en prenait pas conscience. Ça s'est tellement fait vite, là, Caroline. Là. On s'est assis à la cour. Faut dire aussi que c'était comme on s'était assis au mois de mars, puis à cause de la pandémie, on devait avoir un jugement. Tout ça, ça a tellement été remis que sincèrement là, je me suis dit ça va être encore remis. Il va arriver quelque chose là.
Ah oui,
je te dis là, c'était vraiment.
Il y a eu beaucoup de rebondissements effectivement vraiment, là, dans toute l'affaire.
Vraiment
là,
ouais. On s'est rendu jusqu'à la Cour suprême dans ce dossier là.
Ben oui.
Tu parles des deux chefs d'accusation qui restaient, mais au début c'était complot, abus de confiance. Après ça, ils ont rajouté d'autres chefs d'accusation. Après ça, ils l'ont enlevé. Après ça, les deux ont tombé à cause de délais déraisonnables. C'est vraiment une saga qui a duré 4 ans et demi. Mais quand c'est arrivé, c'est comme arrivé tellement... Le juge est arrivé, là, puis quasiment sur sa chaise, il a dit « Bon, j'accepte la requête. Puis je ne ferai pas languir personne. » C'est ça. Fait qu'automatiquement, on venait d'apprendre que c'était fini, là. Puis là, il a été très, très gentil là, envers nous, dans le sens qu'il a dit aux gens, écoutez, malgré tout ce qui s'est passé, vous devez considérer ces gens-là totalement innocents comme n'importe quelle personne que vous pouvez croiser dans la rue. C'est sûr que ça nous a touchés. Là, s'adressait à nous en disant, écoutez, là, je sais qu'il y a des gens qui pourraient essayer de faire des jugements, puis le fameux jugement de la place publique, tout ça. Là. Il dit, moi, je vous le dis, là. Au niveau de la loi, c'est clair que ces gens-là sont aussi innocents que n'importe quelle personne que vous pouvez rencontrer. Puis il a été loin dans son jugement. Tu sais, nous, il nous a touchés parce que il a dit que il y avait des fins obliques dans les arrestations qu'on a eues. Dans notre dossier, puis tu sais, on n'a pas encore la vérité de tout ça encore. C'est encore sous enquête dans notre dossier.
Ouais.
Il nous a dit, il faut comprendre qu'il y avait des objectifs obliques. Tu sais, qui veut dire qu'ils sont pas des objectifs de justice, là, dans ce dossier-là, mais qu'il y avait d'autres d'autres objectifs dans l'appareil judiciaire là, qui fait qu'on s'est fait arrêter tout ça. Et là, on n'a pas encore la réponse à ces questions-là, mais ça nous a quand même, tu sais, nous a quand même envoyé un message pour soulager un peu ce qu'on a vécu comme épreuve, là, tu sais.
Puis, justement, est-ce que ça te dérange de ne pas avoir pu te défendre des accusations qui pesaient contre toi, étant donné qu'elles sont tombées finalement à cause du délai déraisonnable? Oui, ouais, parce que c'est comme s'il n'y a pas la finalité judiciaire ou juridique.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui pourraient dire, ben c'est ça, ils sont pas coupables parce que c'est un délai déraisonnable, la fameuse arrêt Jordan. T'sais, ils se sont sauvés, en fin de compte, avec l'arrêt Jordan. À une certaine époque, je t'aurais dit oui que ça me dérange. Aujourd'hui, ça me dérange plus du tout. Parce que, tu sais, ce cheminement, je l'ai fait là par rapport à moi-même, tu sais. Par rapport à me regarder dans le miroir puis dire, François, qu'est-ce que t'as fait de pas correct? Qu'est-ce que t'as fait de correct dans ta vie? Puis ça, je suis très, très à l'aise avec ce que j'ai fait comme travail, comme maire à la ville de Gaspé. Je suis plus qu'à l'aise. La vérité, je suis très fier. Mm-hmm. Je suis très fier du travail que j'ai fait à la ville de Gaspé. Tu sais. Je sais que toutes les actions qu'on a faites, c'était des actions pour le bien de la communauté. Tu sais, j'ai jamais eu, moi, d'intention criminelle ou de vouloir faire de la magouille. Puis les gens qui ont travaillé avec moi, c'est ce qui m'envoie comme regard aussi puis comme commentaire. Fait que j'ai pu, moi, là, tu sais, après 4 ans et demi, j'étais tellement fatigué aussi, tu sais, que je me dis pas, hey, là, tu sais, j'aurais aimé savoir un procès pour que toute l'information sorte. Ce que j'aurais aimé, parce que j'avais hâte au procès, là.
Ouais.
Ben, moi, là, dans le meilleur des mondes, là, ce que je voulais.
Vous devriez voir François, là, il est vraiment énervé, là.
C'est ça, là.
Genre qu'ils nous le disent.
Parce que des fois, dans mes rêves, là, c'était, je voulais avoir un procès à percer.
OK.
Avec un jury gaspésien. C'est des Gaspésiens là qui regardent François aussi, qu'est-ce qu'il a fait comme maire, là, qu'est-ce qu'il a pris comme décision, puis c'était quoi son plan de match pour développer sa ville là, tu sais.
Ouais.
Ça m'aurait fait plaisir que ce monde-là dit hey, tu sais, lâchez-les tabarouette. T'sais, moi c'est mon feeling que mes bons Gaspésiens m'auraient dit là hey.
Mm-hmm.
Puis j'aurais aimé entendre, tu sais, des gens près de moi qui ont travaillé. Tu sais, j'aurais fait témoigner Daniel Côté, qui a travaillé avec moi, tu sais. Mm-hmm. J'aurais fait témoigner Gaétan Lelièvre. J'aurais fait Alexandre Boulay, Sébastien Fournier. Tu sais, tous des gens
qui ont travaillé avec
moi,
la
j'aurais
ville.
Dit,
ouais.
Dites ce qu'on a fait, tu sais, je veux dire. Si j'ai fait quelque chose de croche ou de pas correct, ben là, je vais l'assumer. Mais j'aurais aimé entendre ces gens-là qui ont travaillé avec moi conter l'histoire, tu sais.
Mm-hmm.
Mais c'est ça que j'ai pas eu, mais je l'ai eu de par leurs commentaires, leur support, tu sais.
Tu l'as eu en privé.
Je l'ai eu en privé, tu sais. Je l'ai eu en privé, puis je l'ai même eu publiquement, tu sais.
Ouais.
Daniel a fait des déclarations, Gaétan et tout ça, tu sais. Bon. Mais il reste que j'aurais aimé ça, que ton le public.
Ouais.
Ça a eu lieu, ça c'est sûr. J'aurais aimé ça, ouais.
Mm.
Mais avec la fatigue là, de ces dernières années, tu sais, j'ai plus besoin de ça pour faire la paix.
OK.
Tu sais, j'ai pas. Non.
Ben, c'est sans doute mieux comme ça parce que, je veux dire, tu peux pas grand-chose à ça de toute façon, là.
Exact, ouais, c'est ça. Mais écoute, peut-être qu'on aura une réponse parce qu'il y a encore une enquête, là, qui est
ouais,
l'attente.
Ouais, c'est ça.
Fait que je pense qu'on aura éventuellement quelques réponses qui pourront encore faire du bien.
As-tu espoir, justement, que... Parce que quand vous avez été justement libéré de ces accusations-là, autant toi que Nathalie Normandeau avaient dit, ça en restera pas là, il y a des choses qui vont sortir.
Exact.
Là, je paraphrase, là,
oui,
mais
oui.
Il y avait beaucoup de documents qui avaient gardé.
Tout à fait.
Des choses qui pouvaient pas être rendues publiques. Donc, toi, tu crois que ça va sortir tôt ou tard?
Je le souhaite. Des fois, je parle à certaines personnes qui me disent « tu rêves en couleur », que le système va se défendre, va se protéger, puis on va vouloir éteindre ça parce que ça éclabousserait beaucoup trop de gens. Mais tu sais, j'ai encore une nature qui a confiance en l'être humain. Tu sais, comme je sais qu'il y a des policiers qui ont pas été corrects dans notre dossier, ça c'est clair, mais je sais qu'il y a des bons policiers aussi, tu sais. Fait que je me rabats sur ces bons policiers-là,
ouais.
Parce qu'il y en a qui ont vraiment, ils nous ont sauvés, là, par leur déclaration. Des policiers qui nous ont sauvés par leur déclaration, là, tu sais, qui ont dit qu'il y a des choses qui se passaient qui étaient pas correctes, là.
Ouais.
Fait que moi, ces gens-là, là, tu sais, ils nous ont sauvé la vie, là, tu sais, d'avoir mis ça au jour, là. Puis là, présentement, on enquête là-dessus, à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé dans les hautes sphères, là, de l'UPAC, tu sais, les hautes sphères. Après ça, tu tombes dans le DPCP, dans le système judiciaire, dans la politique. C'est, mais c'est, Est-ce que c'est trop gros pour qu'un jour on qui veulent je sais il y a des gens qui me disent qu'ils sont dans un système qui disent oublie ça François, tu sais. Ça sortira
ben, c'est
jamais.
C'est David contre Goliath là.
Ouais, mais là écoutez, les enquêteurs qui sont dans le dossier, c'est le BEI, ils ont mis 15 enquêteurs, ils ont sorti du BEI, ils ont loué un local juste pour eux autres,
affecté là-dessus,
Non non, c'est gros ce qu'ils ont mis comme comme moyen là, puis c'est plusieurs millions, tu sais, pour aller au bout de ça, mais est-ce que ça va accoucher d'une souris ou que ça va vraiment accoucher par ça pourrait aller jusqu'à des arrestations, des accusations? Tu sais, je le sais pas, mais j'ai décroché un peu de ça, là. Parce que sinon,
ça tronche par en dedans.
Vraiment.
Là. Ouais.
Quand tu te mets à penser à ça, là. Puis tu sais, ça sert. Moi, je veux travailler dans le positif.
Ouais.
Je veux construire mes projets. Tu sais, si je passe 2 heures, mettons, à lire un article ou à penser à quelque chose que je pourrais, pour développer, disons, cette enquête-là, là, je me gruge le corps puis l'âme parce que je retombe dans ces émotions négatives-là. Si je construis un projet avec des amis, des partenaires, puis on regarde pour construire des logements, là, je suis dans le positif. Puis, ça fait que j'ai décidé vraiment pour me sauver la
une question de survie.
On travaille dans le positif. Oui,
ouais, puis au-delà du positif, qu'il est de toute façon, mais c'est toute la notion de contrôle. Tu contrôles tes projets, mais tu ne contrôles pas une enquête.
Ouais, c'est vrai.
C'est pour ça que j'ai l'impression que, inconsciemment, parce que là, j'ai l'impression que là, ça résonne quelque chose chez toi, mais tu as décidé de focusser sur les éléments que tu contrôles.
Oui, exactement. Puis c'est là où je suis bon. C'est là où je suis bien. De travailler sur des projets que je contrôle,
Mais je sais là, que des fois, le contrôle n'est pas toujours facile, même dans nos projets.
Moi, c'est ça.
cette affaire-là qui impliquait également Nathalie Normandeau a été hautement médiatisée dès le début de l'histoire. Si on revient sur ton arrestation survenue en mars 2016, avais-tu un quelconque indice qui te laissait croire que tu étais sous enquête ou ça a été une surprise totale?
Ben, en fait, on savait qu'il y avait une enquête, là. Mais jamais j'ai pensé que j'aurais pu t'arrêter, tu sais. Jamais. Même quand ils sont arrivés à la maison, je vais dire aux gens comment c'est arrivé. C'est deux enquêteuses qui sont arrivées, qui venaient de l'extérieur, qui ont sonné à la porte autour de 6 heures du matin. Puis ça marque parce que à chaque fois maintenant qu'à 6 heures du matin arrive, là, cette heure, c'est un peu moins pire, mais il y a quelque chose dans mon corps, dans mon âme qui se déclenchait. En fait, je me réveillais tout le temps avant 6 heures pour me dire, s'il arrive quelque chose, ben je vais être debout parce que là, j'étais couché. Fait que cette heure, je me réveille tout le temps à 5h30, 5h du matin, tout le temps. Je sais que c'est sûrement parce que je veux te réveiller avant 6 heures.
Oui. Ben, il y a une mémoire physique, là, pratiquement de ce que tu as vécu, parce que c'est un choc, là.
C'est un choc dans le sens que. Mais premièrement, ils ont rentré et ont dit écoutez, M. Roussier, on veut juste vous dire, parce que j'ai bien vu que c'était des policiers, mais tu sais, en civil.
OK.
Avec une voiture banalisée. Tu sais, ils n'ont pas rentré en disant on vous arrête, on vous amène au poste. Ça, c'est. Il y a beaucoup de. Tu sais, c'est comique parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui disaient ça. Ouais, c'est telle personne qui était l'arrêtée aussi, puis ils ont mis des menottes, puis ça. Oh, puis c'est pas vrai.
C'est pas ça.
Okay. Mais ils ont rentré, ils ont dit écoutez, M. Roussier, on va juste vous dire, il n'y a rien qui t'est arrivé de grave à votre famille. Okay. Parce que, tu sais, ça peut être des fois une mauvaise nouvelle qu'ils viennent nous annoncer. Mais ce qu'on vous annonce là, ça va être quelque chose de gros. C'est quelque chose de gros Québec. Ça va être très, très médiatisé. Je comprenais pas. Il dit, on vous annonce que vous allez être arrêté. Hein? Mais vous, écoutez, tu tombes comme dans un autre... je peux dire ça... c'est surréel, tu sais.
Oui.
Fait que tu deviens dans un autre état parce que sûrement que tu as une montée d'adrénaline qui vient, qui fait que tu deviens complètement dans un autre état. Puis moi, je les ai fait rentrer. J'ai dit, assisez-vous à la table. Voulez-vous un café, voulez-vous un verre d'eau, on va parler, on va jaser. Puis après ça, je le vois, ce que j'ai senti, c'est que ils sont venus comme un peu à la pêche. Dans le sens qu'ils m'ont dit, Monsieur Roussier, vous, là, c'est tout petit ce qu'on peut vous reprocher. On sait que vous êtes un bon maire, vous êtes une bonne personne, mais venez nous conter votre histoire. Puis ça va vous aider, ça va nous aider. Puis là, j'ai senti que c'est comme s'ils venaient me rencontrer, parce que c'est la première fois que je rencontrais des agents de l'UPAC, pour me demander mon histoire, mais en m'arrêtant.
Ouais. Fait que, de toute façon, ils savaient déjà pourquoi ils allaient t'arrêter.
Ben oui. En tout cas, j'espère. J'espère. Puis ça a fait vraiment drôle. Puis là, il m'est monté une montée d'adrénaline en me disant, ça va bien aller. C'est drôle, hein?
Ben, ça doit être l'optimisme fondamental ben, c'est qui t'habite. Ça.
Ou peut-être la moyenne de protection, là. Ouais. Mais j'ai dit, hein, ça va bien aller. Puis là, après ça, j'ai dit, ben écoutez, si c'est vous voulez, parce que là, ils m'ont dit les personnes qui étaient arrêtées, j'ai dit, si vous voulez que je dise des choses sur les personnes qui sont arrêtées là, tout ça, j'ai rien, sincèrement, tu sais, comme, entre autres, je chantais bien, tu sais, on avait une relation très proche, moi, Mme Normando, dans le développement de notre Gaspésie, tu sais.
De par vos fonctions. De par là, nos fonctions.
Ouais, ouais. Mais je le dis, puis je le redis à qui veut l'entendre. Moi, j'ai absolument rien à dire. Qui pourrait incriminer Mme Normando, bien au contraire. Tu sais. Dans tous les projets qu'on a fait ensemble, j'ai jamais senti qu'il y avait de la magouille et tout ça. Tu sais. Puis là, moi, j'étais aspiré dans un procès sur le financement du Parti libéral du Québec. Tu sais, de par ma fonction de maire à la ville de Gaspé. Puis, tu sais, les gens savent que je suis plus péquiste que libéral. Tu sais, c'est
ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je ris un peu, parce que c'est un peu, encore là, c'est surréaliste, parce que c'est pas tes allégeances ben politiques, non. En tout cas, qu'on.
Ben non, que connu, les gens connus. Ouais. Puis là, abus de confiance au début, tu sais, je dis, complot. Là, j'ai comploté avec ces gens-là pour le financement du Parti libéral. Tu sais, c'est comme. C'était surréaliste, tu sais. Puis quand j'ai présenté ça à. Au début, j'ai demandé à un avocat. Tu sais, j'ai vraiment eu des anges, moi, là, dans tout ça. Là, tu sais, cette épreuve-là, ça a été difficile, mais ça a été aussi très constructif, là. Tu sais, je suis une meilleure personne. Tu sais,
Qu'est-ce qui fait de toi une meilleure personne?
Ben, tu sais, je suis plus attentif. Je suis plus attentif aux autres aussi que je pouvais l'être. Je suis plus conscient. De l'impact de nos gestes, de nos paroles. Tu sais, je suis plus dans le moment présent.
OK.
Peut-être trop souvent, moi, j'étais dans, comme je me projetais dans l'avenir, ouais. Où je pensais au passé, tu sais. Mais j'oubliais peut-être. Tu sais, parce que.
Le moment actuel.
Parce que tout est là, en réalité.
Oh oui.
Tout est dans le moment présent. Tu sais, c'est là qu'il faut qu'on soit pour être bien, puis c'est sûr que t'as pas le choix quand tu vis des épreuves comme ça, de te ramener au moment présent, parce que c'est là qu'est ta survie.
Ouais.
Tu sais, si tu dis, ben là, faut que je peux pas que je sois en train de penser au procès, puis qu'il y a des gens qui veulent me mettre en prison, puis qu'il y a des gens que je vais avoir un... Tu sais, c'est...
Ouais.
Si je me mets à penser à ça, je suis pas en train de savourer un bon repas avec mon garçon ou ma blonde ou mes parents. Fait que là, il fallait que je me ramène, puis quand je vous dis tantôt que ma blonde m'a sauvé dans ce sens-là, c'est que elle me ramenait au moment présent, puis tellement simplement, là, tu sais.
Mais juste par la vie qui continuait.
Oui, par la vie qui continuait. Puis écoute, j'étais en début de relation. Moi, j'arrivais à Abitibi, là, comprends-tu? J'arrive là-bas, là, puis là, il s'est fait arrêter, puis c'était un criminel, tu sais. Puis là, je me disais, bateau, tu sais. Tu sais, là, j'arrive au party de Noël, tu sais, puis tu sais, je voyais des gens des fois pour la première fois ou d'une première fois, tu sais, puis je me disais, c'est bon, dans un sens, parce que ici, j'étais beaucoup connu. Fait qu'ici, là, écoute, c'est sûr qu'ici, je parle de l'oasis que j'ai eu avec ma blonde, c'est sûr, parce que c'était dans l'intimité. Mais ici, les gens m'ont sauvé parce que je chantais, là, tu sais, ceux qui m'aimaient, là, c'est sûr, ceux qui m'aimaient pas, ils m'ont juste encore plus haï, puis c'est correct. c'est bien correct pour eux autres. Ils ont une raison, puis un argument, c'est pour me dire, là, je l'aime pas, François aussi, puis c'est correct. Non. Mais ceux avec qui j'avais des relations, puis que je chantais qu'il y avait de la peine dans leur âme, tu sais, puis il y avait de la tristesse, puis qu'il y avait de la compassion pour ce que je vivais, les autres, là, tu sais, ils m'ont sauvé la vie, là, tu sais, ils m'ont donné tellement... J'étais gêné d'avoir tant d'amour, parce que quand c'est arrivé, là, la journée même, je me promenais dans les rues de Gaspé, puis je rencontrais les gens, tu sais, puis là, le monde venait me voir, puis me serrer la main, me prendre dans leurs bras, tu sais, je fais « tabarouette », tu sais, cet amour-là, c'est sûr que ça a été très guérisseur. Là.
Ça aide à continuer de se regarder dans le miroir, comme tu disais, parce que si t'avais été persona non grata à Gaspé, là...
Ouais, aïe. Hey. Puis tu sais, en même temps, quand ça t'arrive, tu vois aussi ce qu'il y a de plus beau autour de toi,
oui.
Mais tu penses à ce qu'il y a de plus mauvais en dedans de toi.
Ah,
ouais.
OK.
Tu sais, ça m'a ramené aussi à dire, ouais, il y a des bouts de ma vie que je suis pas content, que je suis pas fier de moi, que ça te ramène vraiment aussi au plus laid de toi. Moi, c'est sûr que ça m'a fait.
C'est intéressant. Ouais,
tu sais, parce que quand tu dis, hey, si il m'accuse, là, au criminel, c'est que, tu sais, je dois pas être.
Une bonne personne.
Une bonne personne. Tu sais, je veux dire, ces gens. Puisque moi, j'avais confiance aux institutions, là, confiance en la police, confiance. Fait que si tous ces gens-là, là, ils s'enlignent dans ce chemin-là pour moi, là, c'est que. Puis, tu sais, je dois mériter ça. J'ai fait des choses de. Fait que ça te ramène vraiment à tes côtés très
sombres. Ouais.
Tes ombres. Puis là, ben, faut que tu les guérisses, puis faut que tu les adresses, puis faut que tu les acceptes. Puis qu'effectivement, t'as déjà fait des erreurs, t'as déjà été une mauvaise personne, tu sais.
Puis est-ce que tout à l'heure, tu nous disais que t'étais en reconstruction.
Mm-hmm.
Est-ce que ça, cette phase-là de creuser dans tes ombres d'ombre et de les accepter. Est-ce que tu sens que tu le fais à ce moment-là, ce bout de chemin-là?
Oui. Ça, là, je suis rendu là. Mm-hmm. Ça, il y a encore des choses que j'ai à adresser, que j'ai à guérir, que j'ai à pardonner. Mais... C'est vraiment plus dans la confiance envers l'autre, la confiance, puis tout le monde y passe, là. Tu sais, c'est ça qui est, quand tu tombes dans la méfiance un peu, tu sais, tu deviens même méfiant dans tout le bel entourage que je viens de vous parler, que tous mes amis, ma famille, tout ça. Quand tu tombes dans la méfiance de la vie, ben, tu tombes dans la méfiance de tout ça aussi, tu sais.
Puis tout y passe.
Tout y passe. Ouais. Tout y passe, tu sais. Tes relations d'amitié, tes relations avec ta famille. Tu sais, comme je vous dis, je suis chanceux, je suis privilégié. Là, je le vois puis je le sens aujourd'hui que je suis privilégié d'avoir un si bel entourage. Mais quand tu tombes dans la méfiance puis une perte de confiance en la vie puis en l'autre, ben tout le monde y passe. Puis c'est là où ce que j'ai encore à me reconstruire parce que moi, j'ai beaucoup été dans l'action dans les dernières années. Pour me protéger, là, puis pour passer à travers cette épreuve-là, là,
oui.
Je me suis dit, OK, bon, là, t'es tout seul face à toi-même. Fait que j'ai fait des projets. En 6 ans, j'ai parti 7 nouvelles entreprises. Là, c'était too much, là. C'est too much. Non, c'est too much. Mais c'était vraiment ma réponse. C'est de dire, OK, je vais répondre par l'action, puis je vais répondre par l'action positive. Fait que j'ai parti des entreprises, j'ai construit des projets, j'ai racheté des entreprises. J'ai été beaucoup dans le travail, dans l'accomplissement, dans la réalisation, en faisant abstraction de ce qui m'arrivait. Puis une chance que je l'ai faite, sincèrement.
T'as réussi à faire
ouais,
ça?
Vraiment, wow. Vraiment. Ouais, vraiment. Ma force. Ma force, parce que je me présentais devant des partenaires. Tu sais, oui, il y en a que des gens qui me connaissaient pas nécessairement, mais qui savaient que j'étais accusé au criminel, puis que, tu sais... Ouais. Puis là, je leur présentais des projets, puis on pourrait faire ça. Puis les gens disaient, oui, c'est bon. Puis là, les gens embarquaient avec moi. Fait que ça me donnait confiance aussi de dire, bon, mais regarde, on est en train de construire quelque chose de positif, de concret.
Ouais.
Puis ça, c'est vrai, là. Puis c'est tangible. Fait que je me suis lancé dans des projets. Puis c'est sûr que j'avais le goût des affaires, là. Ça fait longtemps.
Ouais. T'en avais parlé aussi quand tu t'es retiré de la politique, tu sais,
ouais.
Que t'avais le goût d'aller tester le marché entrepreneurial. Je pense que t'avais quelque chose de pas réglé avec l'entrepreneuriat.
Tout à fait.
Ça se met-tu?
Ouais, tout à fait. C'est comme si l'entrepreneuriat, pour moi, c'est comme dire... Parce que, tu sais, j'ai commencé ma carrière comme directeur d'un Carrefour Jeunesse Emploi, donc dans le public, tu sais.
Ouais.
Après ça, la mairie. Fait que j'ai toujours été comme un employé, si vous voulez, de l'État ou du public, tu sais.
Mm-hmm.
Mais j'aime beaucoup le côté entrepreneuriat pour dire, c'est comme l'autonomie, la liberté de dire ce que j'ai réalisé, ben c'est par l'effort de mes actions, de mes propres actions, de mon propre travail, tu sais. Il y a ce petit côté-là que j'aime de l'entrepreneuriat. Même si, en fin de compte, tu peux être entrepreneur comme mère, tu peux être entrepreneur dans le public, tu sais. Mais j'avais le goût de cette autonomie-là. Mm-hmm. Puis là, ben, je l'ai réalisé.
Moi, on n'est pas des proches, là. On se connaît depuis longtemps, mais on se côtoie pas régulièrement. J'étais sous l'impression que les premières années après l'arrestation, que tu t'étais un peu effacé, mais dans le fond, tu travaillais en coulisses sur tes projets d'entrepreneur, notamment en immobilier, je crois.
Ouais, ouais. Mais ce que tu dis là, il y a beaucoup de monde des fois qui me disait, es-tu encore à Gaspé, tu sais?
Ah oui, je me suis aussi demandé ça.
Moi, ça. Parce que c'est sûr que j'étais plus dans la sphère publique. Ouais. Dans le sens que j'allais plus dans les événements publics. Mais j'étais très, très présent dans mes affaires. C'est ça, exactement. Okay. Puis, ben, il faut dire aussi que ma conjointe est en Abitibi. Mm-hmm. Fait que ça fait 7 ans que je voyage de la Gaspésie à l'Abitibi.
Et moi, je le sais que c'est très loin parce que j'ai du Témiscamingue. Je peux pas croire que tu fais ça depuis 7 ans régulièrement.
Ouais, ouais. Ouais.
Parce que là, pour les auditeurs, là, on parle d'une
quinzaine
d'heures à 20 heures, dépendamment si tu le fais sur une journée ou deux.
Ouais.
Puis d'ailleurs, on va en reparler tantôt, mais tu as trouvé une façon de rendre tes déplacements productifs avec une entreprise.
Oui, oui, exactement. C'est une entreprise qui m'a permis, ouais, c'est ça,
ouais.
De joindre l'utile à l'agréable. Mais ça fait que c'est sûr que j'étais souvent à l'extérieur, en Abitibi. Mais non, j'ai été beaucoup impliqué ici, mais dans des projets privés.
OK.
Donc, les gens qui me côtoient dans les projets privés, comme je te dis, j'ai parti cette entreprise en 5 ans. Fait que j'étais beaucoup très, très dans les micros, si tu veux, projets ou les micros...
Avec un cercle restreint de gens, finalement.
Ouais,
donc, c'est pour ça que ça donnait l'impression que t'étais... T'étais-tu là ou...
C'est ça, aussi. Puis, tu sais, j'étais tellement dans le monde public avant, puis dans les médias,
le contraste était grand.
Était grand, c'est ça. Puis la situation faisait aussi que je pouvais plus m'adresser nécessairement publiquement, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que... Mais... Non, puis tu sais, j'ai vraiment jamais eu le sentiment ou le besoin de m'isoler, mais vraiment plus de travailler avec ma garde rapprochée puis les gens qui étaient dans mon entourage.
Là. Dans un environnement là sécuritaire et de confiance, finalement.
Ouais, ouais.
Parce que là, toi, de la confiance, t'en avais perdu beaucoup, donc ces projets-là... Parce que ce que j'entends, c'est que tu t'es étourdi en étant dans l'action pour ne pas
tout à fait.
Ne pas crasher là, suite à cet événement-là. Là,
tout à fait. Oui, tout à fait.
Ça a été ta réponse à toi. Là.
Ça a été ma réponse, ça a été mon moyen de défense. Ça a été là où j'ai pu trouver l'énergie pour passer à travers. Mais tu sais, en même temps, là j'ai le clash présentement, là. Tu sais, j'ai le clash de tout ça parce que, tu sais, quand justement ils ont annoncé la fin des procédures, c'est là où j'ai mis mon genou à terre, là. Tu sais. Pas dire les deux genoux parce que quand t'es dans, je pense à un peu un soldat qui est à la guerre, qui est au combat puis qui se bat, ben là, il n'y a pas le temps de penser à réfléchir comment il se sent ou comment il réfléchit par rapport à ça. Là, il est en survie, là, tu sais. Bon.
Exact.
Mais une fois que ça finit, puis que là, tu déposes les armes, tout ça, puis tu reviens dans une vie, disons, plus normale. Mais là, c'était comme, OK, mais ouf, là, je suis fatigué, là.
L'adrénaline qui te tenait tout ce temps-là,
là,
l'instinct de survie t'a abandonné à ce moment-là.
Abandonné, ouais.
Puis comment ça s'est traduit, ce moment-là?
Fatigué physiquement, psychologiquement, puis comme, c'est ça, c'est beaucoup, veux pas, je suis beaucoup plus dans ma tête, beaucoup plus dans la réflexion, de dire, bon, après, là, c'est quoi après tout ça, tu sais, puis comment je me reconstruis une confiance, puis est-ce que je vais être capable de retrouver le François, là, je le disais à la troisième période, mais qui avait tellement confiance en la vie, puis qui avait tellement confiance aux autres, puis qui trouvait que la vie était tellement bonne et belle, là, j'étais un peu égratigné.
T'as perdu une candeur, une certaine naïveté qu'on a, puis qu'on perd peu à peu on franchit des difficultés dans la vie, là, pour ne pas dire épreuve. T'sais, on en laisse toujours un peu en chemin, là, de la naïveté, de la candeur, de l'insouciance. T'en as laissé dans le parcours.
Ouais, c'est clair. C'est clair,
Puis tu sais pas encore si tu vas la retrouver...
J'ai confiance, là. Ouais. J'ai confiance en l'avenir. Mais je ne sais pas encore par quel chemin.
Oui, c'est sûr que ça va arriver.
Y arriver, là. Oui, ouais. Ouais, c'est ça.
Le temps arrange tout, hein, ouais, comme
c'est
on
ce qu'il dit. Mais en tout cas, je me répète, là, mais vraiment, quand j'ai écouté là, les témoignages d'Isabelle, de Frédéric, Jean-François, Isabelle, Nola, tout ça, c'est vraiment inspirant. Ces gens-là sont vraiment plus loin, je trouve, vraiment dans toute leur démarche, puis leur... quand j'écoutais ça, veux pas pour m'inspirer de ce qu'on allait vivre comme moment aujourd'hui, si je savais pas c'était quoi.
Oui. T'sais?
Puis, wow!
Ben, ils sont la démonstration que c'est possible.
C'est ça.
De passer au travers les épreuves, de se construire, de se développer comme personne.
C'est ça. Puis, tu sais, j'haïs ça, dire que j'ai passé à travers une épreuve. Tu sais, il y a des gens qui vivent des situations tellement plus graves ou pénibles ou souffrantes, tu sais, je veux dire. Mm. Tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi qu'il fallait que je me le dise, tu sais, parce que j'ai été soutenu, c'est sûr, là, dans mon processus. Mais tu sais, je veux dire... Les conséquences de cette épreuve-là sont quand même pas si graves que ça, que d'autres épreuves, tu sais, mm-hmm. que les gens peuvent vivre, tu sais, que ce soit la maladie, la perte d'un être cher ou n'importe quoi, ouais. tu sais, puis dans toute ma vie, moi, je me suis senti des fois comme ça, là, imposteur de l'émotion que je pouvais vivre, tu sais, puis c'est pour ça, tu sais, je dis, on parle d'épreuves aujourd'hui, on parle de résilience, mais bon, Yann, il y a tellement d'autres personnes qui ont vécu des situations... Ouais. Beaucoup plus souffrante que ce que j'ai vécu là.
T'as pas le monopole de l'épreuve.
Exactement. Exactement.
Tout est relatif dans la vie. On le dit aussi quand on se compare, on se console. C'est un peu ça veux dire. Ok, là, je suis ici, j'en parle avec vous là, mais c'est parce que c'est moi qui t'ai approché aussi là. C'est pas toi qui m'as dit, hey, j'aimerais ça parler de résilience avec toi, démontrer comment j'ai été bon pour traverser mon épreuve. C'est pas ça du tout, là. Ouais, c'est vraiment... mais je trouve ça intéressant que tu le soulignes quand même, que je pense pas que l'idée, c'est absolument pas qu'on s'appitoie sur ton sort. Là.
Exact.
C'est vraiment plus de s'intéresser au parcours de l'humain le cadre d'une épreuve comme celle-là.
Exact.
Et évidemment, il y en a tant d'autres dans la vie. Ouais. C'est jamais en comparaison, effectivement. Là,
exact. Ouais.
On habite dans un petit milieu où tout le monde se connaît, puis toi en particulier, étant donné que tu as été maire de Gaspé de 2005 à 2013, c'est ça?
Oui.
Donc, à qui tu pensais en premier quand tu savais que ça allait sortir dans les médias? Quand
l'arrestation a eu lieu, le matin même, c'est mes parents. C'est mes parents, ma mère. Pas de cachette, ma mère, parce qu'elle avait une activité la fin de semaine qui s'en venait. Ma mère, elle travaille, elle organise des événements avec le club féminin, tout ça, puis elle aime beaucoup ça, organiser des choses pour que les gens ont du plaisir, puis du bonheur, puis que faire la fête, tout ça. Puis, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Je me dis, ah, bon Yann, en fin de semaine, c'est cette fameuse activité-là. Fait que là, j'ai pensé à ma mère, tu sais, à mes parents. Évidemment, j'ai appelé tout de suite ma blonde aussi pour lui expliquer la situation puis qu'est-ce qu'elle allait sortir dans les médias. Mon garçon était là aussi. Il était présent quand c'est arrivé. Fait que j'étais là lui parler puis lui expliquer la situation. Fait que c'est ça, j'ai pensé à mes proches.
Mm-hmm.
J'ai pensé à mes proches.
C'est tous ceux aussi qu'on souhaite rendre fiers dans la vie et non pas de les décevoir. Et là, je ne dis pas que tu les as déçus, mais c'est la crainte.
Oui, c'est la crainte.
Ouais.
Mais tu sais, c'est ça, j'ai comme pas eu quand même la crainte de décevoir mes gens puis mes personnes proches qui me connaissent, parce que j'ai quand même assez cette confiance-là que je suis pas une mauvaise personne. Puis je travaille fort pour soutenir et aider les gens qui m'entourent. Puis je pense que ça, c'est pour moi, c'est important que les gens qui sont autour de moi peuvent compter sur moi, puis qu'ils savent que je suis là quand il y a des situations qui sont plus difficiles. Puis je savais que vice-versa, j'aurais eu ce support-là, cet appui-là. T'sais, des fois, c'est plus par rapport à l'ensemble de ma population. Tu sais, c'était vraiment... C'était parce que tu te fais arrêter comme maire.
Ouais.
Pas comme nécessairement comme personne, tu sais, c'est comme...
Ouais, dans comme, tes fonctions.
À mes fonctions de maire. Mm-hmm. Fait que j'ai plus pensé tout ça à mes citoyens qui avaient voté pour moi, qui m'avaient fait confiance, mm-hmm. qui étaient fiers de ce qu'on avait fait ensemble, tout ça. Les gens qui ont travaillé avec moi. C'est plus à eux que j'avais de la peine ou des sentiments que ma famille. Ça, j'ai pensé tout ça à mes parents, tu sais, parce que eux, c'est quand même... C'est clair que j'avais peur que ce soit un choc pour eux autres, tout ça, mm-hmm.
Mais c'est de l'amour inconditionnel, l'amour de la famille.
C'est ça, exactement. Ouais. Puis tu sais, comme je vous dis, tu sais, c'est ces preuves-là qui nous ont quand même encore, où je sors de là plus fort, tu sais, mm-hmm. Grandi, mais en même temps affaibli.
Ouais, mais ça fait du sens.
Ça fait du sens.
Oui. Bel anglicisme, là, mais oui, oui. Ouais. Puis aussi, ben, est-ce que tu avais cette crainte-là que la population que tu avais servi pendant plusieurs années, deux mandats, est-ce que tu as eu peur que ce soit cet événement-là qui définisse ce que tu es? T'sais, un seul événement qui allait un peu effacer tout le travail fait dans tes fonctions de maire? As-tu,
non.
Ça t'a pas, parce que c'est pas arrivé parce que tu as senti la population derrière toi?
Oui, c'est ça. Okay. Oui, puis pas juste ça, tu sais. Je suis très conscient du beau travail qu'on a fait. Mm. Je suis très conscient de ce qu'on a fait dans le cadre des inondations à Rivière-Nord, puis l'inondation en 2010, qu'on a fait pour positionner la ville avec toute la promotion, le 400 sur les 15e, tout ça à l'époque. Tout ce qu'on a fait aussi pour dans l'éolien.
Ah, ça a été des grosses années de développement économique, là, les
vraiment,
années où tu étais à la mairie. Là.
Ouais. Des fois, je regardais pour écrire des lettres, puis je repensais. Puis ça, il faudrait que je le fasse encore plus, de dire ce qu'on a fait comme bon coup, mais tu sais, comme la régie de l'énergie, là, tu sais.
Oui.
Tu sais, je veux dire, redonner à toutes les communautés. Je me rappelle à l'époque, là, toutes les villes en Gaspésie se battaient pour avoir un projet éolien, tu sais.
Oui.
C'est qui allait avoir le projet dans sa MRC ou dans sa ville pour les fameuses redevances.
Oui.
Puis quand on est arrivé avec le concept où, hey, à place d'avoir un gagnant là puis 20 perdants là, on va tous être des gagnants en se faisant une corporation ensemble de toutes les villes, peu importe ce qu'est le projet éolien, on va aller chercher des revenus puis en dehors de la taxation. Pour moi là, cette leg là qu'on a faite, puis je m'inclus dans l'équipe qui a tout réalisé ça, mais évidemment ça prenait les gens de la CRE, les gens du Technocentre, tout le monde qui a contribué à ça, les politiciens,
élus,
tout ça, les
ouais.
élus, ben le gouvernement à l'époque nous appuyait, toute cette équipe là, j'ai fait partie de cette équipe là. Je suis vraiment fier là.
Oh,
de,
oui.
C'était
puis
tout
la régie
un leg,
intermunicipale
là.
D'énergie existe toujours aujourd'hui
toujours.
Et a plein
plein de
des projets.
Puis tu sais,
des projets plein les cartons.
Fait que tu sais, c'est pour ça que je tu sais puis tu sais, je pourrais parler de d'autres projets qu'on a fait. Fait que non, j'ai toujours été sincèrement très fier de ce qu'on a fait à la ville de Gaspé avec l'équipe qui était en place quand que j'étais à la mairie.
Est-ce que ben en fait, comment t'as affronté la tempête? Je sais que t'as nommé d'être dans l'action, donc en développant des projets, des entreprises, mais est-ce que t'as eu le besoin de demander de l'aide à un certain moment dans le parcours?
Tout à fait. J'ai des gens qui m'ont suivi, j'ai été rencontrer des gens qui m'ont aidé, c'est clair. J'ai beaucoup d'anges autour de moi qui m'ont supporté, tant au niveau, disons, psychologique, que même juridique, que même, tu sais, comme justement dans mes projets d'affaires, tout ça. J'ai beaucoup, beaucoup de monde qui sont venus m'aider puis me supporter. Puis oui, j'ai eu besoin d'aide, c'est clair, pour adresser là, les émotions que je pouvais avoir. Mais tu sais, j'ai jamais, par contre, puis j'aurais pu passer par là, mais j'ai jamais été... T'sais, ça m'est arrivé des fois des pleurs puis de la peine là, d'avoir de la peine, de la grosse peine, mais j'ai jamais été en situation là où je pouvais plus là, disons me lever le matin là, puis tu sais, j'ai pas, puis genre ça aurait pu arriver là, mais puis peut-être parce que j'étais vraiment dans l'action, puis que j'avais des beaux projets qui me nourrissaient quand même là, puis que je me
donnais une raison de te lever le matin.
Ouais, c'est ça. Puis je me concentrais beaucoup là-dessus.
Ouais.
Puis que j'étais terriblement bien entouré. J'étais chanceux là, tu sais, j'avais beaucoup de d'anges puis de support pour me permettre de rester quand même assez assez en santé dans tout ça. Mais c'est sûr, j'ai eu des moments là, de grande peine, la tristesse, okay. La peine. Ouais.
Mais pas de détresse, là, pas d'idées noires.
Non, c'est ça. Okay. Jamais eu d'idées noires.
C'est
là.
Une question que je me suis souvent demandé. Oui,
c'est ça.
En toute honnêteté.
Non, toute honnêteté. Oui, les gens auraient pu dire ça. Écoute, François, là, avec ça, puis c'est tellement médiatisé. Puis, tu sais, ils pourraient dire, écoute, moi, là, j'arrête ça, là. Tu sais, Mais j'ai jamais eu d'idées noires. J'ai eu de la peine. J'ai eu un petit peu de colère, des fois. La tristesse, des fois de la rage, là, un peu. Mais non, j'ai pas été dans les idées noires.
Tu disais... T'as été chanceux, t'as été bien entouré, t'as eu des anges dans plein de sphères de ta vie, finalement. Ouais. Mais en fait, je vais te challenger là-dessus parce que on fait sa chance aussi, là. J'ai l'impression, dans le fond, que tu sais, t'as donné beaucoup dans plein d'éléments au fil des années, puis finalement, t'as reçu beaucoup quand toi, t'en as eu besoin. C'est-à-dire que les gens qui ont été là pour toi, possiblement que tu avais été là pour eux d'une certaine façon. Mm-hmm. Bon, on s'entend que des professionnels
non, c'est
de
ça.
La santé, c'est différent. Mais ce que je veux dire, c'est que, Derek Aucoin, l'ancien joueur de baseball homme de médias aussi à sa retraite, est décédé malheureusement en décembre dernier d'un cancer du cerveau à 50 ans. Mais lui, il disait tout le temps à son fils, donner, c'est recevoir.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, j'appliquerais ça à ta situation parce que je sais l'homme généreux que tu es par rapport à tes proches. Tu es vraiment un gars de famille, toi. Mm-hmm. Là, tu nous l'as partagé d'ailleurs. Mais as-tu l'impression que, en quelque sorte, ça t'est revenu justement, ton implication, ta contribution dans la vie dans la vie des citoyens que que dans ta vie personnelle?
Oui, ben en fait, ce que tu dis, ça me parle beaucoup dans le sens que effectivement, je crois beaucoup au fait que donner, c'est recevoir. T'as raison quand tu dis ça. Puis oui, j'aime donner, j'aime beaucoup donner. J'aime plus donner que je pense que recevoir. Puis effectivement, j'ai reçu beaucoup. Ce que tu dis a plein de sens. Puis oui, c'est vrai que donner du positif, ça te ramène du positif. C'est vrai. Puis c'est comme je disais d'entrée de jeu, j'étais une personne qui avait beaucoup confiance en la vie, qui aimait la vie, qui trouvait que les gens étaient bons, que le monde était bon. Fait que j'ai toujours eu cette énergie-là aussi que je donnais.
Ouais.
Fait qu'effectivement, je n'ai reçu beaucoup. Puis je remercie beaucoup tous les gens qui m'ont redonné aussi fort que ça. Ça m'a permis de passer à travers les moments plus difficiles. Ouais.
As-tu eu l'impression à un certain moment que ta vie était foutue à cause de ces accusations-là? Non, jamais arrivé.
Non, jamais.
J'avais préparé la question, mais avec ce que tu nous dis depuis tantôt, j'ai l'impression que...
Non, c'est ça, je...
Ben, tes projets fonctionnaient, donc il y avait un après de toute façon. Hein.
C'est ça.
Si, ça aidait à envisager l'avenir avec confiance.
Là. Exact, exact. Puis c'est ça, ce malheur-là est arrivé, mais sans d'autres malheurs, tu sais, dans le sens que même que c'est ça, mes projets d'affaires se sont bien passés, ma famille, tout ça, tu sais, ça fait que c'est ça. J'ai jamais eu l'impression que ma vie était foutue. Puis écoute, moi j'étais un gars de feeling des fois là, puis tu sais, il y a des émotions qui me montent là. Puis quand c'est arrivé là, à peu près 2-3 jours après là, les arrestations, il y a une chanson qui s'appelle K.O. qui est passée à la radio là.
Okay.
Faut écouter les paroles. Puis moi, c'est comme si la chanson me parlait, là.
Ouais.
Puis elle disait, là, tu vas montrer le meilleur de toi-même, là. Tu vas te relever de bout, là. Puis tu vas montrer, là, que t'es capable, là. Puis il n'y aura pas de match de revanche, là. Tu vas gagner ce match-là, là. Puis tu vas, tu sais. Puis je te dis, la toune, encore quand je l'écoute, là, c'est comme j'avais un message, là, tu sais,
c'est un peu
des fois ésotérique.
Oui, mais il y a des fois des circonstances, la synchronicité, voilà.
Mais je te
des
dis,
fois,
là,
c'est puissant, hein?
Et c'était fort. Puis tu sais, avec un rayon de soleil dans votre... Tu sais, la totale, pour me dire, Ben, tabarouette, ça va bien finir quand même, cette histoire-là, tu sais.
Et je vais sortir le meilleur de moi-même, même si le prochain défi est le centième. Si je suis KO, je me relèverai quand même. Et contre moi, il n'y aura pas de combat revanche.
Écoute, je vais t'en conter un autre, là. Ben, j'étais avec mon avocat qui est aujourd'hui juge, là. Puis là, on se préparait au procès, parce qu'on devait avoir un procès.
Oh, c'est-à-dire oui.
qu'on était à un moment donné à quelques semaines du procès, puis quand il y a eu un revirement total. Puis là, je me préparais, tout ça. Puis là, il me dit, je sais pas, j'ai dit, il n'y aura pas de procès. Là, Stéphane me dit, qu'est-ce que tu dis là? Je sais pas, mais je t'ai dit, comme une émotion qui est montée, j'ai dit, il n'y aura pas de procès. Puis c'était comme,
ah ouais.
Je te le dis, je te le dis. J'ai vraiment dit ça, puis il dit, hey, là, j'aime pas ça, François, il dit, là, faut qu'on se prépare, faut qu'on soit prêt, qu'on va gagner, mais là, tu me disais, non, là, écoute, aussi, tu t'en vas. Mais il n'y a pas eu de procès.
Hey, c'est vraiment, ouais.
Je te le dis, j'ai vraiment eu, c'est, puis des fois, je le demandais, là. C'est comme une fois, un voyage avec ma blonde, dans le parc de la Gaspésie, on est les deux tout seuls, sur le bord d'un lac, sur le dessus du mont, puis, j'étais là tranquillement, puis là, j'étais un bout un peu plus difficile, puis je trouvais ça tough, puis ouf, j'avais de la misère à... Puis à un moment donné, il m'est venu comme un « Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. »
Ah ouais.
Tu te dis, ça m'est monté comme ça, je dis « Ah! » Puis là, c'est vraiment ça, j'avais peur, tu sais, j'avais peur. C'est sûr, quand t'arrives là-bas, là, puis tu vois les policiers, puis les procureurs, puis tout ça, là, c'était peur. Hein. Tu sais, il n'y a pas de cachette, là, c'était peur. Hein. Puis là, c'était comme « une émotion, là, puis ouf. Fait que dans toutes ces années-là que j'ai vécu, j'ai eu des moments comme ça de, je sais pas, tu sais que ça vient.
Ouais, c'est ça, on comprend pas.
On comprend pas. Ouais. Mais c'était ça.
Puis ça, à chaque fois, ça a aidé.
Ça a aidé carrément, là. Celle-là, de dire, arrête d'avoir peur. Arrête. Aïe, j'ai fait, c'est vrai, comment ça? On dirait que j'ai peur de tout, là. Ça a pas d'allure, là, voyons donc, tu sais. Fait que, c'est ça. À travers tout ça, j'ai eu des moments forts, sûrement parce que quand t'es l'adrénaline, puis les émotions, puis que tu sais, tu es dans des épreuves comme ça. Il y a des choses comme ça qui se passent, puis ça s'appelle peut-être l'intuition, je sais pas quoi, mais faut vraiment que tu écoutes ça parce que ça te permet de passer. Ça m'a permis, moi, de passer à travers ça.
C'est vraiment intéressant. As-tu eu l'impression que tes co-accusés, puis toi, vous avez servi de bouc émissaire? Puis encore de trophée de chasse de l'UPAC. L'UPAC a été beaucoup critiqué. Là. Mais en d'autres mots, est-ce que tu penses que vous avez été victime d'une injustice tellement il y a d'éléments là, de l'enquête et il y a des choses là, quand même bizarres. Là. Tout le monde s'entend pour dire que c'est un dossier assez particulier.
Oui. Ben, le juge l'a dit dans son jugement qu'il y avait des objectifs obliques. C'est quoi? On le sait pas encore. C'est sûr que j'ai... dès le départ, tu sais, il y avait des choses, l'arrestation, les jours du budget. On sait qu'aujourd'hui, nos arrestations ont été devancées. C'est sûr que... oui, on a sûrement été utilisés... le juge le dit, là. On a été utilisés pour des fins obliques. Mais quand je regarde ce qui est arrivé, disons, entre autres, à M. Ouellet, Guy Ouellet, qui lui a été vraiment framé, qu'on appelle. En tout cas, c'est ce qui en ressort, là.
Ouais.
Ben là, c'est sûr qu'après ça, ben là, tu dis, moi, j'ai-tu été framé aussi? On a-tu été utilisé pour... c'est sûr que les questions se posent.
Ouais.
Tu sais... J'ai peur de répondre à cette question-là des fois par le oui, parce que là, je tombe dans une dynamique où je me dis, hey, c'est injuste ce qu'on a vécu là. Tu comprends, je veux dire?
Puis tu viens de dire, c'est une question qui peut se poser. Moi, je te l'ai posée, mais toi, tu te la poses pas, cette question-là, à l'évidence. Juste de par ta réponse aussi hésitante, t'es pas là-dedans, là.
Non, c'est ça. Mais j'ai été un peu peut-être là-dedans, puis là, je veux plus retomber là-dedans parce que ça me draine trop.
Ouais.
Tu sais,
c'est un piège, là.
Mais tu sais, je tombe là-dedans, OK, je dis, OK, là, on a été vraiment utilisés. Ils ont vraiment, tu sais, pris nos dossiers, puis en fin de compte, tu sais, certaines personnes qui disent que c'était d'autres personnes qui devaient être arrêtées ce mois-là, qui ont jamais été arrêtées. C'est d'autres dossiers qui devaient être amenés au DPCP qui ont jamais été. Tu sais, ce que je te dis là, c'est toutes des questions qui ont été posées là. On est toutes des ex. C'est toutes des ex-maires, tout ça. Il n'y avait aucun élu en fonction qui a été arrêté. Mais en tout cas, c'est toutes des questions qu'ils nous ont posées. Mais quand je me mets à me poser ces questions-là, là, je fais quoi avec ça après? T'sais? Puis là, si je fais rien, je me sens comme coupable de rien faire. Si tu vis une injustice, toi, puis tu fais rien avec l'injustice.
Ouais.
Puis là,
c'est une grosse question.
Tu vis une injustice, puis tu fais rien avec l'injustice. Tu te bats pas ou puis présentement, tu sais, parce que beaucoup de monde me dit qu'est-ce que tu vas faire avec ça, j'ai pas l'énergie de me battre contre ça. J'ai juste l'énergie pour être dans le positif de mes projets puis de me reconstruire, tu sais.
Ouais.
Peut-être que dans un an ou dans deux ans, je vais te répondre différemment, mais pour l'instant, j'ai comme pas le goût de répondre à la question parce que je veux pas m'impliquer je veux pas m'engager dans cette bataille-là.
Tu choisis tes combats.
Pour l'instant, ouais.
Et là, c'est pas ton combat à livrer. Là.
Puis j'aimerais ça que quelqu'un, on dirait, livre. J'aimerais que quelqu'un d'autre le livre pour moi.
Ouais.
Vraiment, là. J'aimerais ça que, tu sais, ça se règle tout seul, cette injustice-là, puis qu'il y a du monde qui travaille, puis qui arrive à dire, hey, François, regarde, là, on va te dire, là.
Ouais.
C'est ça qui est arrivé, c'est ça. Puis, je sais pas. Peut-être que c'est ça qui va arriver, mais.
C'est pas là que de concentrer tes énergies va rapporter le plus, en tout cas. C'est pas ça que tu sens.
Non, c'est pas ce que je sens. Non, c'est pas ce que je veux pour l'instant, ça. Ouais.
Qu'est-ce qui t'a aidé? As-tu eu l'impression que ta vie a été sur pause pendant ces 4 années et demie-là? Parce que j'avais entendu que ta vie avait été sur pause, mais là, je t'écoute puis je me dis, en tout cas, pour un gars qui est sur pause, il accomplit beaucoup. toutes ces entreprises-là, ces projets-là. C'est beaucoup plus profond que ça, là. Sur pause, là, on s'entend.
Non, c'est ça. Mais ma vie a été sur pause dans le sens que tu dis, c'est quoi la finalité de ça, là?
Oui.
Je veux dire, tu sais, la finalité, c'est que tu vas-tu faire de la prison? Tu comprends-tu? Dans le sens que ta vie, en fait, ton avenir devient sur pause.
Oui.
Tu sais? Puis moi, j'ai travaillé très, très fort dans mes projets puis dans l'action pour me réaliser. Donc, ma vie n'était pas sur pause dans le day-to-day. J'ai parti mes projets, mes entreprises. Mais c'est sûr que mon avenir pendant 4 ans et demi était sur... L'avenir était sur pause dans le sens que je savais pas qu'est-ce qui m'attendait. Je savais pas au bout de tout ça qu'est-ce qui m'attendait.
Oui. Puis ça pouvait même inclure tes projets actuels.
Tout à fait.
Parce que si... Par exemple, je sais pas, tu aurais fait de la prison.
Exact.
Ben là, tu devais te questionner sur qu'est-ce que je vais faire de tout ce que j'ai en marche.
Tout à fait.
Ouais.
Puis, tu sais, je vais donner un exemple très concret. Moi, j'ai des baux avec le gouvernement. Tu sais, j'ai un édifice commercial, j'ai des baux avec le gouvernement. Demain matin, je suis reconnu coupable là, au niveau criminel. Je suis capable encore de signer ces baux-là. Je suis capable encore d'être propriétaire d'un édifice où le gouvernement loue des. Tu sais, Puis. Heureusement, puis je sais pas de pourquoi, j'ai totalement fait abstraction à ça. Puis les gens qui ont travaillé avec moi ont totalement fait abstraction à ça. Tu sais, les gens répétaient un peu aussi, on prend un pas de recul, je pars pas un projet avec lui. Tu sais, je partais des projets avec des gens, on mettait des entreprises en place, on construisait des entreprises, tu sais, on était actionnaires dans les entreprises.
Ouais.
Puis heureusement, les gens ont totalement fait abstraction et moi aussi. Une chance, parce que j'aurais pu mettre sur pause. Oui, j'étais chanceux.
Dans plein d'autres histoires d'accusation, la personne devient. Personne ne veut s'en approcher. Tout le monde se détache. Des fois, là, je dis ça là, des fois avec raison, tout ça, ça n'était pas arrivé alors que ça aurait pu.
Tout à fait. Fait que, non, c'est ça. J'ai été. Ça, je suis chanceux dans toute cette épreuve-là quand même, là, d'avoir pu passer à travers de cette façon-là. C'est plus là, l'après qui est le défi. Là.
Ouais. Ben, on dirait que c'est un peu l'effet à retardement, possiblement, de ce que tu as vécu. Puis que, en étant dans le moment présent, parce que, tu sais, on revient au moment présent, toi, tes partenaires, tout le monde était dans le moment présent, ils n'ont pas en train de se faire des scénarios sur qu'est-ce qui pourrait peut-être arriver, mais que finalement, à cause de l'issue de l'arrêt des procédures, ça aurait été tellement d'énergie perdue. Moi, en tout cas, c'est un de mes plus gros apprentissages de vie, là, d'être vraiment dans le moment présent parce que, tu sais, je veux dire, des fois, on perd tellement d'énergie à se faire des scénarios incroyables.
Incroyable.
Puis toi, t'es pas tombé dans ce piège-là du tout. T'as eu la chance que personne autour de toi tombe là-dedans. Mais ça reste qu'au quotidien, quand même...
Ouais.
Tu sais, il fallait une force là, pour poursuivre malgré tout, parce que c'était une épée de Damoclès pareille tu avais sur au-dessus de la tête.
Puis tu sais, je me suis quand même cassé la tête, là, tu sais. Puis aujourd'hui, ça me donne comme expérience de dire, « Hey, t'en rappelles-tu comment tu t'es cassé la tête? » Puis en fin de compte, il y a des bouts que tu t'es cassé la tête pour rien.
Oui, c'est ça.
Tu sais, souvent, c'est ce que tu dis. Souvent, on se casse la tête ou on pense à un problème ou on pense à quelque chose, mais c'est tellement pas ça qui va arriver ou c'est tellement d'autres choses qui vont se passer.
On s'en fait tellement trop.
Tellement. Puis, tu sais, quelque chose qui m'a aidé aussi à un moment donné, c'est comme... Quand que, tu sais, de se dire, on s'en fout. Tu sais, on dit, comme tu me disais tantôt, tu sais, qu'est-ce que les gens ont pensé de toi? Puis, tu sais, parce que des fois, on est beaucoup là-dedans, tu sais, veux pas dans le monde public, dans un petit milieu. À un moment donné, on s'en fout. Tu sais, je veux dire, qu'il y a quelqu'un qui m'aime pas, je m'en fous. C'est lui, il m'aime pas. Mais, tu sais, moi, là, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mes proches. Puis, tu sais, je construis là-dessus. Puis, je continue à travailler. Puis, à offrir le meilleur de moi-même, c'est ça qui est le plus important, puis dans le moment présent. Le dire « je m'en fous » de temps en temps, là, ça fait du bien.
Ça fait du bien.
Non, ça fait du bien.
Je l'entends que ça te fait du bien. Peux-tu leur dire, François?
Je m'en fous. Puis tu sais, je le dis poli, là, à ta radio, là, mais ça fait des fois un petit peu plus.
Je pense que c'est suivi d'autres mots, hein. J'aimerais savoir, sur le plan professionnel, qu'est-ce qui s'est passé pour toi au cours des dernières années, mais de façon plus spécifique, pour que les gens qui ne savent pas, et je m'inclus là-dedans, puissent t'associer à des projets concrets, parce que tu as fait allusion à la création de cette entreprise, mais y en a qui doivent être... qui sont publics, là.
Ils sont publics, oui, tout à fait. En fait, ça a été beaucoup dans le domaine de l'immobilier. En fait, la plus grosse entreprise, ça a été le rachat de l'entreprise familiale. Oui. C'est encore là quand je te disais j'étais bien supporté, mes oncles, M. Denis, tout ça, qui étaient des actionnaires, tout ça. Eux, ils arrivaient vraiment à la fin de leur vie entrepreneuriale, je peux m'exprimer ainsi. Là. Puis mon père était évidemment très impliqué dans le projet. Puis j'ai racheté l'entreprise familiale.
Okay.
Ça a été vraiment un événement gagnant-gagnant parce qu'eux étaient rendus à une époque de leur vie où ils voulaient moins se casser la tête des problèmes d'entreprise. Puis j'ai vécu ça avec mon père aussi. Mm. Puis encore aujourd'hui, on travaille ensemble. Et ça, là, tu sais, c'est... Tu sais, des fois, je me dis, si c'était pas arrivé tout ça, tu sais, peut-être que j'aurais pas vécu tous ces beaux moments de vie-là, tu sais.
Ouais.
Moi, mon père, quand on rentre dans notre bureau d'affaires, puis qu'on s'installe là, puis qu'on placote de nos projets d'affaires, tout ça, là, c'est le fun, tu sais. C'est vraiment, tu sais, des moments, là, privilégiés, là, tu sais. Puis on est fiers de nos projets, tu sais. Puis j'ai développé solide, là, tu sais.
Ouais.
J'ai cherché comme 15 nouveaux locataires. J'ai acheté des terrains. Après ça, j'ai parti des entreprises pour construire des triplex avec des connaissances qui sont aujourd'hui des amis. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai été, ça va super bien, les projets, donc c'est très nourrissant.
Mm-hmm.
Puis, il y a un projet, parce que ma blonde puis moi, ma blonde voulait partir en affaires aussi, elle pensait beaucoup à ça. Puis, ben ça, comme tu le disais d'entrée de jeu, c'est un peu la COVID, je veux dire, la pandémie qui nous a amené à ça, parce que faut comprendre que, à un moment donné, voyageant entre la Gaspésie puis l'Abitibi, là, Au début de la pandémie, est-ce qu'il y avait des barrages de police qui empêchaient les gens de oui. voyager d'une région à l'autre? Là.
Ben oui.
Ben nous autres, là, ça nous a fait un choc. Là, parce que là, on se disait, bon, qu'est-ce qui va nous arriver? Là? On ne pourra plus voyager d'une région à l'autre. Puis moi, depuis plusieurs années en Abitibi, je trouvais que je ne comprenais pas qu'il n'y avait pas de poissonnerie.
Okay. Je confirme.
Tu confirmes, hein?
Ben oui, c'est... En tout cas, faut que tu manges du congelé tout le temps, là,
ben c'est ça, tu sais.
En termes de poisson. Oh, moi, j'avais jamais mangé de crabe, de homard avant de venir habiter en Gaspésie. Puis ça existe pas.
Mais tu sais, c'est quand même spécial. Je comprenais pas, tu sais, qu'il y avait pas de... Sauf, bon, dans l'IGA, toutes les grandes surfaces. Mm. Fait qu'on, ça faisait quelques années qu'on en parlait, mais là, je me suis dit, parce que si on devenait un service essentiel,
oui.
on pouvait transporter des aliments, tout ça, ben là, on pouvait voyager d'une région à l'autre.
Aïe,
fait que là, on s'est assis sur le coin d'une table.
Vraiment
comme ça. Au début, j'ai dit, bon, OK, je me loue un camion
réfrigéré.
Puis j'ai un ami qui est pêcheur aussi, qui est dans le homard, tout ça, dans le développement des pêches, tout ça. Fait que je dis, ah, m'a transporté du homard. Donc, je vais donner un service essentiel. Puis je vais pouvoir aller en Abitibi porter le homard, puis en même temps, aller voir ma blonde. c'était ça, le plan.
C'est vraiment être un homme d'affaires, puis voir les opportunités, ça. Franchement, ah, là, oui. c'est une belle démonstration, François.
Ah, oui, puis écoute, ça va super bien, puis c'est un beau projet. Là. On a vraiment du fun dans ce projet-là. Ça s'appelle la poissonnerie aux deux marées, justement, tu sais, parce que... Puis, écoute, à place de louer un camion, on a acheté un camion réfrigéré, puis là, on a mis une boutique en ligne, on vend en ligne sur Internet, on a 4 points de service à Val-d'Or, à Rouyn, à Amos, à Lassard. On essaie de se rendre jusqu'au Témiscamingue, puis les gens du Témis disent « Hey, oubliez-nous pas! »
C'est sûr qu'ils veulent pas être oubliés.
On n'oublie pas. Mais là, on réussit à livrer jusqu'à Ville-Marie.
Ah, mais quand
avec
même,
des concepts, ouais, c'est ça, avec des concepts de... Fait que c'est ça. Ça, c'est un gros projet, quand même, une poissonnerie avec ma blonde, là, qu'on a parti ensemble, on a fait l'entreprise, on a acheté notre camion. Puis là, puis tu sais, ma blonde est très, très occupée, là. Tu sais, professionnellement parlant, là, travaille très, très fort, elle est consultante, puis c'est... Elle déborde d'ouvrages.
Ah, mon Dieu.
Puis moi, dans mes projets immobiliers aussi.
Ben oui.
Là. Fait que là, mais on...
C'est pas que vous manquiez de travail.
Non,
deux,
c'est
là.
Ça. Mais écoute, on tu serais de voir dans le camion, là. Puis on voyage, puis on va porter nos boîtes. Puis écoute, porter de la nourriture à des gens, là.
Ouais.
Puis voir le sourire, tu sais, là, quand t'offres le homard là, de la Gaspésie qui a été pêché le jeudi, puis qu'on l'amène le vendredi, là.
Wow.
Le monde, là, tu sais, là, qui font... Hey, merci. Puis c'est vraiment valorisant.
Ah, c'est clair.
Puis je voulais vraiment être dans le monde de l'alimentaire. Je voulais vraiment partir.
Ah oui?
Ouais, oui. Ouais.
Pour quelle raison?
Ça me tentait l'histoire de nourrir les gens.
Mm-hmm.
Parce qu'à un moment donné, je regardais un projet de serre à Gaspé.
Oui.
Au début, avec un autre partenaire aussi, on regardait pour faire pousser des fruits, des légumes, tout ça. Le côté alimentaire m'intéresse beaucoup.
Mm-hmm.
Puis je crois aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités d'affaires. Il n'y a pas de cachette, là. Puis mm-hmm. à tous ceux qui peuvent nous entendre, là, je pense vraiment que de nourrir la terre, nourrir les gens, c'est des projets d'affaires qui peuvent être très, très porteurs pour l'avenir. Ouais.
C'est quoi? Ça me fait penser que dans les trois besoins primaires de l'individu, il y a se nourrir,
mm-hmm.
ce que tu fais avec le projet avec ta blonde,
mm-hmm.
se loger.
C'est vrai.
C'est ce que tu fais avec tes projets immobiliers. Fait que là, il va falloir que tu te lances dans se vêtir.
Ah, ça, je suis moins bon là-dedans. Mais c'est vrai, se vêtir. C'est vrai, il faudrait que je regarde.
Écoute,
ça,
je te lance l'idée.
Mais je te dirais qu'à un moment donné, je travaillais fort pour une aubainerie à Gaspé parce que c'était
quand t'étais mère.
Ouais, c'est ça. Puis même après, je me disais, hey, Colin, parce que j'avais un local à louer à un moment donné, je me disais, hey, je sais pas si une aubainerie viendrait dans mes locaux puis si on pourrait partir ça, tout ça. Mais
ça manque encore à Gaspé, vêtir la famille.
Oui, vêtir la famille.
Les enfants, particulièrement.
Oui, c'est clair. Mais je pense que je vais plus être investisseur, partenaire. Je suis pas bien ben bon là-dedans.
Non. J'ai un de mes amis, il appelle ça la guenille.
Ouais, c'est ça, je suis pas bon dans la guenille. Je suis moins bon dans la guenille, mais...
Oh, c'est bon. Je me demandais, tu disais, je suis en reconstruction, puis je suis au début de mon processus.
Ouais.
Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as l'impression d'être au tout début par rapport justement notamment aux invités que j'ai reçus sur le balado? Tu sais, ça te fait prendre conscience que tu n'étais pas rendu aussi loin dans ton cheminement, mais Autre que ça, qu'est-ce qui... Parce que là, tu commences à revenir dans ce que tu as vécu, parce que j'ai l'impression que tu t'es pas autorisé beaucoup à aller vivre. Jouer là-dedans, hein, ouais. Parce que c'est encore... C'est sensible, là.
Oh, oui, c'est très, très sensible. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de cachette. Pour moi, ça me demande... Là, je suis bien de t'en parler, là. Je suis agréablement surpris d'être bien comme ça, là. Mais j'avais des appréhensions. Parce qu'à chaque fois, je retombe dans ce sujet-là ou quand les gens, même les gens bien gentils me reposent des questions ou tout ça, on me dit des commentaires même positifs, là. Ça vient, je sais pas, toucher une corde qui est sensible puis qui me fait pas nécessairement du bien. Là, je dois dire que de la façon qu'on s'est laissé, que je me suis laissé aller à te parler comme ça, ça, peut-être que ça faisait partie du processus de guérison, là. Mais c'est ça, c'est que c'est drôle à expliquer, un peu comme je te parlais tantôt des émotions qui montent à la surface. Présentement, l'émotion, des fois, qui remonte à la surface, c'est de dire comment ça je suis pas aussi heureux que je devrais l'être. Comment ça je suis pas aussi. Comment ça je savoure pas, tu sais, que ça c'est terminé.
Ouais.
Que mes projets vont bien. Que tout ça que je répète depuis tantôt qui va bien autour de moi, comment ça je le sens pas, je le ressens pas aussi fort que je devrais le ressentir?
Pourquoi tu sautes pas de joie, là?
Tu sais, pas de joie, tu sais.
Sentir la liberté qui devrait venir avec,
ben oui,
quelque sorte.
C'est pas ça que j'ai comme émotion. C'est pas ça qui remonte. Tu sais, c'est comme plus une sorte de fatigue, puis une sorte de... Fait que c'est ça, là, tu sais, d'après moi, je suis dû aussi comme physiquement, comme je te dis, les entreprises, là, tu sais, on a travaillé vraiment fort là, dans tout ça. Fait que là, je suis dû peut-être prendre une pause aussi. Là. C'est sûr que là, on se disait, là, je prends plus de projet. Là. J'en pars.
C'est... Mais c'est bon de le dire publiquement, ça va t'aider
à l'entendre. Parce qu'à l'assimiler, parce que vraiment, là, faut que j'arrête là.
Ouais.
Je peux plus en prendre de projet. Là. Ça marche plus, là. C'est too much, là. C'est trop là. Puis de me donner du temps, là. C'est de me donner du temps des fêtes. Tu sais, on s'en va dans le parc Forillon, là, en fin de semaine, là, deux jours, là, tu sais. Puis là, je vais en prendre beaucoup plus de ces petits moments-là, là, tu sais.
Décrocher. Te reposer aussi.
Me reposer, tu sais. Faire un voyage avec mon garçon, tu sais. Tout ça, là, tu sais. Faire une activité avec mes parents. Tu sais, vraiment, là, c'est ça, là.
Ouais.
Des petits moments bien simples, là. Puis des amis, que tu sais, ça fait un petit bout aussi que j'ai des amis que je suis dû pour voir puis revoir, là. Fait que c'est ça. Puis c'est peut-être aussi, comme on disait d'entrée de jeu, un peu la saison, là, tu sais. Veux pas. Puis la pandémie, tout ça, là, on est comme fatigué un peu, là, je pense, collectivement, là. Peut-être ça que je ressens aussi. Fait que c'est ça. J'ai besoin Mais j'ai besoin de comprendre... comprendre qu'est-ce qui fait que je suis pas aussi heureux que je devrais l'être. Puis il y a peut-être le fait aussi que j'ai beaucoup affronté ça aussi tout seul, hein. Tu sais, comme moi, j'allais en cours à Québec, tu sais, ma blonde voulait venir, ou mes parents, tu sais, non, mon gars voulait venir, mon garçon, non.
Tu voulais pas qu'il...
Non, je voulais tout seul. Je voulais pas que les gens soient affectés par ça, tu sais. Je voulais pas que les gens soient...
Ou identifiés même à ça. Peut-être.
Ouais, peut-être.
Tu sais, il y a des photos qui se prennent dans les palais de justice. Je suis dans cette idée.
Ben oui, tout à fait. Oui, parce qu'écoute, c'était impressionnant, là. Au niveau médiatique, là. C'est sûr que c'est Nathalie, là, tu sais, puis que les gens m'écoutent, là. C'est.
T'entends
les photos, les commentaires. C'est.
Ouais.
Alors, tu sais. Ben, moi, je veux dire, comparativement à Nathalie, c'est rien, là. Je pense souvent à elle, ce qu'elle a dû affronter, là. Wow! Ça, c'était...
Ben, en fait, je te l'ai pas dit, mais j'avais appelé Nathalie, mais elle n'a pas voulu, fait que j'ai appelé toi.
Non, c'est pas vrai. Après moi, t'aurais dit oui.
je sais pas, ben on se connaît, là, mais quand même. Non, c'était juste pour te faire rire un peu, là. Mais c'est vrai que c'est intense, puis possiblement que ça aurait été un choc pour ton entourage de vivre ça, là. C'est impressionnant, là.
Oh, oui, c'est impressionnant. Puis tu sais, en fin de compte, à la fin, mes parents sont venus, ils voulaient venir, puis je dis, bah oui, venez-vous-en, tout ça. Il y a mon garçon, à un moment donné, qui voulait venir, mais ça, j'étais moins à l'aise qui vivent là, je sais pas pourquoi, une sorte de pudeur,
Papa poule,
là. Puis ma blonde voulait venir. Non, tu sais, c'est moi, là. C'est moi qui est au front, là. C'est moi qui est là, puis c'est moi qui va... Mais elle est quand même venue à la fin. Elle était là quand ils ont fait le jugement à la fin. Elle était avec moi dans la salle, tout ça, là. Mais c'est moi qui voulais pas, là. C'est moi qui voulais pas que les gens m'accompagnent là-dedans, là.
As-tu peur de ce que tu pourrais trouver en cours de route dans ta reconstruction? Est-ce que tu penses à ça? Je pense que tu es tellement dans l'action, ça me surprendrait que tu t'es posé plein de questions. Quoique, tu fais beaucoup de route.
Oui.
En allant être sur la route, c'est réfléchir.
Ça, c'est des bons moments.
Parce que c'est bien correct d'écouter des bons balados, là, mais...
C'est ça, exactement. D'écouter beaucoup sur la route, oui.
Oui, hein? Oui. Mais est-ce que ça te fait peur? Parce que je sens une certaine vulnérabilité. J'ai l'impression que ça vient te chercher parce que c'est certainement la zone dans laquelle tu es le plus vulnérable actuellement, étant donné que tout le reste va bien.
Ouais.
Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, t'as mené à bout de bras pendant des années, puis que là, enfin, tu peux baisser la garde parce que c'est terminé.
Mm-hmm.
Mais... ce qu'on vit pas au moment où ça se produit, tu sais, ça
nous rattrape. Surface, ça nous rattrape.
Ouais, ça nous rattrape souvent. Nous rattrape. Je ne vais pas te dire, faire peur.
Non, mais tu as raison.
Mais j'ai l'impression qu'il doit y avoir une certaine forme de crainte là, d'aller au bout de tout ça. Là,
Oui, tout à fait. Puis, tu sais, il y a certains constats que j'ai faits déjà qui sont durs pour moi d'adresser, là, des fois. Là, tu sais. Fait que c'est ça, des fois, là, qui peut m'arriver. J'ai plus peur de pas trouver le bon chemin, tu sais. Plus ça, là. Tu sais, comme je te dis, tu sais, je disais, tu sais, comme moi, j'ai peur de rester avec un manque de confiance en la vie, tu sais.
Ouais. Ce qui était une qualité chez toi, tu sais, je veux dire. T'appréciais la vie, t'avais confiance, tout ça.
C'est ça.
T'as peur d'avoir perdu ce François-là, peut-être?
Ouais, c'est ça, tu sais. Puis c'est ce bout-là. Mais si j'ai pas peur d'aller où il faudrait que j'y aille pour trouver des solutions, là, tu sais. J'ai juste peur de peut-être pas trouver le chemin pour y arriver. Mais tu sais, c'est
pas une peur, chemins.
Mais une inquiétude. Tu sais, ça, il y a plusieurs chemins. C'est plus une inquiétude. Puis comment de temps ça va prendre? Tu sais que... C'est ce bout-là que je suis dans le doute. Je suis dans le questionnement.
Ben, confidence pour confidence. Moi, après le premier arrêt de travail que j'ai fait quand j'avais 21 ans, j'ai perdu... Moi, là, je l'ai perdu, ma naïveté, ma candeur, ma confiance en moi, ma joie de vivre. J'ai perdu beaucoup d'éléments qui me caractérisaient. Puis tu sais, cette certaine confiance-là qu'on a, puis insouciance, là.
Moi,
la première vraie fois, elle est tombée là. Puis j'ai... Ce que tu dis, là, d'avoir peur de pas retrouver ça, là, moi, je me suis demandé si j'allais redevenir la personne que j'étais. Parce que je l'aimais, cette fille-là.
C'est ça.
Puis parce que, dans le fond, c'était des forces qui... Puis je viens de le faire allusion, c'était caractéristique chez moi.
Ouais.
Puis là, j'allais être qui si j'étais plus ces caractéristiques-là, voire ces qualités-là.
Ouais.
Puis ça suscite beaucoup d'inquiétude, surtout quand c'est une facette de soi qu'on apprécie et à laquelle on s'identifie.
Ouais.
Dans mon cas, ça a pris 2 ans.
2 ans.
Ouais.
Okay.
Puis revenir d'un burn-out, j'avais lu que ça prenait à peu près 2 ans. Moi, j'en ai vécu 2. Puis les 2 fois, ça a pris. Pour moi, en tout cas, c'est un repère là, qui est juste. Que je sais pas sur quoi il se base, ça doit être des études, mais ça a pris ce temps-là.
Okay.
Puis un jour, je te souhaite de sentir que tu as retrouvé ça. Ces forces-là ou ces caractéristiques-là qui t'ont abandonné momentanément, je te le souhaite.
Ouais.
Moi, c'est arrivé.
Ouais.
Mais le temps arrange tout.
Le temps arrange tout. Mais c'est ce que tu me dis qui me donne confiance. C'est ce que Isabelle a dit, Frédéric, tous les gens qui me donnent confiance. Mais c'est, on en parle, je t'ai connu beaucoup à cette époque-là, au début, là.
Ouais, c'est
puis
vrai.
C'est vrai que t'étais, là, une personne, tu sais, t'as toujours été comme un rayon de soleil rayonnante, souriante, avenante pour les autres, puis tout ouais. ça. Mais ça a pas changé, là. Je peux te le dire, je peux te le dire.
Mais il y a eu un moment où c'était
peut-être
pas aussi
présent. Que j'étais ouais, pas ouais. là, que j'étais pas, ouais, j'ai pas connu cette période-là, là. Ouais. Mais je peux te dire que, ben, c'est ça qui me donne confiance en disant ça, là. C'est que ça,
ouais.
ça revient à surface, tu sais.
Ouais, parce qu'à un moment donné, tu te fais peur toi-même, là. Tu te dis, ouais, mais je vais-tu pouvoir, embarquer avec énergie dans tous les projets
c'est
sans
ça.
Me brûler. Et là, tu sais plus sur quel pied danser. Ben, tu sais, toi, est-ce que tu vas pouvoir faire confiance tu sais, baisser la garde par rapport à la méfiance?
Ouais.
Tu sais, il y a beaucoup de choses.
Ouais, ouais.
Ouais.
Mais en espérant qu'on sera meilleur, en espérant.
Moi, j'ai foi. J'ai très confiance. Je vois pas pourquoi tu y arriverais pas. Mais c'est facile à dire quand c'est pas nous-mêmes.
Ouais. Mais oui, je suis comme toi. Là. J'ai confiance quand même à l'avenir. Là.
Donne-toi le temps.
Ben oui.
Puis maintenant, aujourd'hui, pourquoi tu as décidé de revenir sur cette histoire-là? Justement, tu sais, c'est un peu confrontant, douloureux.
Ouais.
C'est pourquoi t'as accepté de revenir jouer là-dedans?
Je sais pas.
Tu sais pas?
La vérité, je sais pas.
Parce que quand tu m'as dit oui
rapidement. J'ai dit oui tout de suite, puis ouais, je t'ai même dit, hey, ça va me faire du bien, ça m'a pouvoir en parler sur un autre angle. Puis tu sais, sincèrement, là, je te cacherai pas là, que dans les derniers mois, à un moment donné, je me disais, ouf, je rappelle-tu Caroline? Puis sincèrement,
ah,
là,
pour vrai?
Ah ben tu sais, j'ai flirté avec ça, là, dire... Tu sais, je retombe-tu là-dedans?
Ça va-tu me faire du bien?
Ça va-tu vraiment me faire du bien ou que je retombe pour, tu sais, j'ai-tu l'énergie pour ça? Puis tu sais, comme je te dis, j'ai beaucoup de projets, tout ça. Mm. Tu sais, puis, mais il n'arrive rien pour rien. Mm. Le fait que tu m'as approché pour ça, puis j'étais un gars de feeling.
Ouais.
Moi, c'est pour ça que je t'ai répondu tout de suite. J'ai comme eu un feeling que, ah, ça n'arrive pas pour rien, ça va être bon, ça va sûrement me faire du bien. Puis sincèrement, là, je le dis, ça... quelque chose qui en tout cas de léger. En tout cas, c'est pas stressant ce que je fais là.
OK. C'est
stressant, c'est léger, c'est agréable. Fait que j'ai hâte peut-être de revoir dans quelques semaines, quelques mois, quand on écoutera tout ça. Sûrement que je devais le faire pour avancer puis me faire du bien là. Mm. Mais c'est ce que je ressens là.
Mm. Merci de la confiance, en tout cas.
D'être une personne de confiance. T'es une bonne personne. Tu sais. Puis tu le sais, là, t'es une bonne personne. T'as des bonnes valeurs, mais tu dégages la bonté.
Ah,
tu dégages la bonté.
Puis maintenant, ben justement, tu viens de le dire, mais comment tu te sens? Est-ce que tu sens que tu as été profondément marqué par ce qui s'est passé? Tu sais, là, je le dis, je sais que tu es à un certain stade de ton cheminement, mais... Tu sais, comme là, on vient de l'aborder là, pendant de nombreuses minutes. Tu sais, ton impression à savoir à quel point c'est marquant, c'est ancré dans toi à ce stade-ci, tu dirais que c'est quoi?
Quand j'étais dedans, je me disais ça va me marquer pour la vie. Puis aujourd'hui, parce que tu sais, j'ai des gens autour de moi qui ont passé à travers des grosses épreuves aussi, puis qui méritaient pas des grosses épreuves comme ça, là.
Mm-hmm.
Puis en même temps, ils disent aujourd'hui, c'est drôle à dire, mais ces épreuves-là, aujourd'hui, si je les aurais pas vécues, je serais pas aussi une bonne personne, ou je serais pas aussi heureux, ou je serais pas... Fait que quand ils me disent ça, ça me résonne pour me dire, tu sais, fallait peut-être que je passe par cette bout de plate-là, puis cette épreuve-là, pour être une meilleure personne, puis...
Continuer d'évoluer.
Mm. Ouais, continuer d'évoluer. Puis c'est clair qu'il y a des choses que j'ai aujourd'hui, que j'ai faites, que je suis terriblement content d'avoir faites, puis c'est en réaction à cette épreuve-là, tu sais, où ça découle le fait que j'ai passé à travers cette épreuve-là. Peut-être que je serais pas à la même place, peut-être que je serais pas aussi dans la recherche, là... plus du moment présent, puis d'un bonheur plus simple, plus connecté, plus réel, que, parce que c'était dans la politique des fois, puis dans le développement, c'est beaucoup des fois aussi dans le paraître ou dans l'image, où ça roule tellement vite à un moment donné, tu sais. Là, je suis plus groundé, même mm-hmm. si j'ai encore, un bout de chemin à faire pour atteindre une situation de bonheur, là, de plénitude. Là. Oui. Mais le bout de ce que j'aime, c'est que je suis plus... Je suis plus grounded, là, je sais pas en français. Mmh,
ouais,
je suis plus,
ouais. Ben, ancré.
Je suis plus ancré. Moi, je suis plus ancré, puis je suis plus prêt à faire des bons choix, puis des bonnes décisions, des bonnes actions pour être meilleur.
Ouais. Mais il y a un fil conducteur à toutes tes actions, puis c'est le développement de notre communauté, de notre région. Mm-hmm. Tu sais, dans tout ce que tu as fait, dans tes expériences professionnelles, là, on le voit, le dénominateur commun. Là.
Ah ouais.
Toi, c'est dans le fond, c'est ta passion là, de développer
passion.
Notre coin de pays.
Ah oui. Ah, moi, la Gaspésie, là, ma région, là, puis les régions du Québec, là, ça a toujours été... c'est ce qui vient vraiment me chercher. C'est ma passion. Là. Puis tu sais, je le fais avec des petits projets d'affaires, puis c'est parfait comme ça. Tu sais.
Ben, on est petits projets.
Moi, c'est des petits projets.
Oui, mais il manque tellement de logements à Gaspé.
Je pense que c'est des beaux gros projets. Oui, c'est ça, mais je le fais, on le fait à coup de triplex, on le fait pas à coup de grands projets. Puis c'est correct, c'est ça que j'aime. Là.
Ouais.
J'aime ça... ouais, quelque chose de plus petit, plus concret, plus accessible là, puis ouais.
Qu'est-ce que en fait, je sais pas si tu as l'impression que tu peux recommencer à vivre une vie normale, puis là dans la normalité, je vais inclure ce qui t'inquiète, tu sais, c'est-à-dire de pouvoir savourer le quotidien tu sais pleinement sans avoir une certaine on dirait qu'il y a une petite peine, en tout cas, une tristesse là, qui reste par rapport à tout ça, tu sais, pour que tu retrouves la flamme, là.
Ouais.
Qu'est-ce que je te souhaite pour les prochaines années?
De la paix. De la paix.
Mm.
Ouais, c'est ça, on se disait cette année, là, à Noël, quand c'est arrivé, là.
Mm.
C'est...
Après que les accusations soient tombées, là.
Ouais. Tu sais, c'est le premier Noël où ce que... Parce qu'à chaque Noël, je me disais, bon, là, j'ai un procès cette année. Bon, j'ai un procès cette année. OK, là, j'ai un procès cette année.
Il n'y arrivait jamais.
Il n'y arrivait jamais. Puis là, c'était comme, hey, j'aimerais ça avoir de la paix, tu sais.
Ouais.
La tranquillité, là, tu sais, là.
Tranquillité d'esprit, là.
La tranquillité d'esprit, c'est ça. De la paix, la tranquillité d'esprit, de la zénitude, là, tu sais, là.
Une certaine sérénité, là, par rapport à... Dans l'esprit là, qui
c'est
est là.
C'est
qui
rien de grisaille, là, rien d'ombrage. Là, de la paix.
Ben, je te le souhaite sincèrement, merci. François.
Merci.
Je te remercie tellement d'avoir, à ton tour, te livrer toi aussi beaucoup de choses quand même personnelles. Puis je te souhaite bonne chance dans ton cheminement. Puis je pense, en tout cas, petite ligne éditoriale, n'hésite pas à aller chercher de l'aide. Hein?
Oui, tout à fait.
Il n'y a aucun... je pense pas que c'est un tabou
non,
tout pour toi.
Là,
tu l'as dit que tu en avais eu, mais...
Je l'ai eu, puis je vais en chercher quand... Oui.
Exact.
C'est important.
Bon, on n'est pas outillés pour vivre tout ce qui nous arrive dans la vie. Donc,
exact.
Il faut aller chercher les outils qui manquent quand c'est le temps de le faire,
tout
au besoin.
Tout à fait. Merci. Merci du conseil.
Puis bonne chance dans tes projets d'affaires.
Merci.
Quand la poissonnerie là, sera ouverte au Témiscamingue, là,
oui.
Me le dira, j'ai plein de monde à aviser.
Plein de monde à aviser.
Oui, c'est ça. Merci, François.
Merci, Caroline. Merci.
Et à vous, chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous êtes intéressés à découvrir mes différents contenus, que ce soit mon blog ou ce balado, je vous invite à vous rendre sur mon site web à auboutdesoi.ca. Et si vous avez apprécié mes contenus, n'hésitez pas à les partager à votre famille et à vos amis. J'espère vous retrouver lors du prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.
Au bout de soi est une idée originale de Caroline Farley, réalisée en collaboration avec Radio Gaspésie et le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. Merci au groupe québécois Wheel Driving West, qui a gracieusement accepté l'utilisation de leur pièce Betterlands de l'album Castle comme chanson-thème d'Au bout de soi. Suivez Au bout de soi à auboutdesoi.ca sur Facebook ainsi qu'au radiogaspésie.ca.